Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr avec votre rendez-vous des podcasts de la rédaction. Aujourd'hui, mercredi 19 mai 2010, nous sommes à deux jours, chers amis, de la sortie de Red Dead Redemption sur PS3 et Xbox 360, le nouveau jeu de Rockstar, le nouveau open world, le nouveau free roaming, comme on dit. On va donc s'intéresser aujourd'hui à ces jeux-là, à la liberté dans les jeux vidéo. Et est-ce que la liberté, messieurs, c'est la question qu'on va se poser. Est-ce que c'est le Saint Graal des joueurs? Est-ce que c'est notre Eldorado à nous? Est-ce que tout va se passer dans les jeux à free roaming dans l'avenir? On va aussi retracer évidemment un petit peu l'histoire du jeu open world à travers les âges vidéoludiques. Et donc autour de la table rouge laquée aujourd'hui, vous l'avez bien entendu, hein, Julien C n'est pas là. il est remplacé aujourd'hui par
moi-même. Au pied levé par un autre Julien, on en a en stock un paquet quand même.
Voilà, on a quelques Julien au cas où pour les remplacements. Nous avons donc Raon qu'on vient d'entendre. Comment ça va, Raon?
Ça va, et toi?
Bah, super bien, super bien. Un petit peu stressé par rapport.
Mais c'est pas grave, ça va bien se passer.
Faskil également est là.
Hello.
Salut.
Moi j'étais très impressionné par ton imitation de Julien C. Hein.
C'est vrai. Ah, écoute, bon, voilà.
J'ai cru une seconde quand même.
On n'y peut rien après 143 épisodes à entendre la même chose. On finit par faire un peu du mimétisme. On est également avec Trazom. Bonjour Traz.
Salut, ça va?
Bah, très bien, et toi? Et ça va. Enfin, l'ami Mimic, voilà, qui est là avec nous aujourd'hui.
Salut.
Qui a plein de choses à nous dire également sur les jeux free roaming, les jeux bac à sable, les mondes ouverts et compagnie. Donc, la sortie de Red Dead Redemption, c'est ce qu'on peut appeler, on l'appelle souvent ce genre de jeu, les GTA-like, parce que c'est vrai que Grand Theft Auto a changé pas mal de choses dans le monde des jeux ouverts. Mm-hmm. C'est celui qu'on retient, c'est un peu la période charnière GTA 3. Cela dit, les mondes ouverts, c'est quelque chose qui date d'il y a bien plus longtemps. Mm. On peut par exemple, on parle souvent d'Elite comme le premier jeu, c'était en 1984, le premier jeu à monde ouvert. Certains vont même jusqu'à parler d'Adventure en 79 sur Atari 2600. Là, c'est un peu tiré par les cheveux, si vous voulez mon avis, mais bon, bref. Rien de mieux pour entamer un débat que de commencer par une définition. Voilà, tout à fait, parce que c'est, il faut qu'on fixe un peu, faut qu'on lance voilà sur de bonnes bases ce débat. Donc, quelqu'un veut se lancer dans cet exercice peut-être.
Est-il en me regardant?
Et là, je te regarde vraiment parce que c'est un peu toi le spécialiste pour ce genre de choses. Donc, définissons un petit peu ce qu'est un jeu à monde ouvert, un free roaming.
Alors, on va déjà synthétiser un peu tous les termes qu'on entend et qui désignent en fait a priori la même chose. Donc, on l'a dit, c'est les jeux open world, les GTA-like, les jeux en free roaming. Donc, tout ça, c'est en fait en gros des synonymes pour décrire des jeux qui se situent dans un univers cohérent et d'un seul tenant. Qu'on va pouvoir parcourir de fond en comble de manière libre et donc y trouver des objectifs à faire soit scénarisés, soit qui sont la résultante de ce qu'on appelle le gameplay émergent sur lequel on reviendra un peu plus tard. Mais grosso modo, le jeu open world est vraiment lié au concept de liberté du point de vue de l'exploration surtout. Et en fait, au lieu de... Traditionnellement, les vieux jeux, c'est des niveaux qu'on passe les uns après les autres. La différence fondamentale qu'il y a entre les jeux open world et les autres, c'est qu'il n'y a pas de niveau à proprement parler. Il n'y a pas de passage de tel endroit avec des chargements entre, etc. Tout repose sur un monde global cohérent d'un seul tenant. Après, il y a évidemment beaucoup plus de subtilité. Et comme on va le voir dans l'émission, c'est peut-être pas si simple de bien catégoriser finalement ce que
c'est. C'est très très dur parce que c'est un genre qui a forcément évolué, hein, comme tous les genres en jeux vidéo. Il y en a qui ont disparu, etc. Ouais.
Et il n'est pas apparu d'un seul coup non plus. Il y a eu des antécédents qui sont petit à petit amenés à ce qu'on découvre ce type de concept.
C'est vrai qu'on va s'en tenir du coup à une définition un peu globale sur l'exploration, comme tu disais, parce que l'aspect bac à sable, c'est-à-dire cet univers...
Un autre synonyme que j'avais oublié,
voilà,
bac à sable.
Fait, qui était donné pour faire mumuse, finalement c'est quelque chose qui est assez récent. Quand on va s'intéresser donc aux prémices de ce genre, donc notamment à Elite, il n'y avait pas vraiment de ça dans Elite. Qui est un spécialiste d'Elite ici? Je crois que Faskil est...
C'est plutôt mimique. Hein,
ouais. Plutôt mimique.
Ouais, c'est vite dit, mais non, j'en garde des souvenirs à Paris ça parce que j'ai joué sur 64, CPC 64. Donc tu vois, c'est pas tout jeune.
C'était en 1984. Hein.
Voilà, donc j'étais tout petit devant ma cassette en train de l'avoir tourné avant pour que le chargement s'accomplisse.
Oui, effectivement, le CPC à l'époque, c'était des cassettes audio sur
mais
lesquelles
à l'époque, on était très
enregistrés les jeux.
Voilà, non, mais c'est surtout que.
On n'avait pas le choix.
Oui, c'est vrai. C'est finalement plus l'idée du jeu que je me faisais qui est importante que la réalité du jeu en elle-même. C'est-à-dire qu'en gros, tu te balais dans un vaisseau, tu pouvais faire des échanges de minerais de planète en planète, tu récoltais les minerais, tu les échangeais et tu pouvais te faire attaquer sur les trajets par des pirates ou voilà. En gros, pour résumer, c'est ça moi le gros souvenir que j'ai de ce jeu-là. Et le truc qui est génial, c'est que je pouvais passer des des minutes entières à traverser l'univers, où il faut voir l'univers de l'époque, hein. C'était un petit point pour une étoile et puis un viseur.
C'était du vectoriel, oui.
Voilà.
C'était très détaillé.
Même sur les plateformes les plus avancées de l'époque, ce qui n'était pas le cas du CPC, parce qu'Elite est sorti sur plusieurs plateformes, visuellement c'était évidemment très sommaire, mais on reconnaissait les vaisseaux, il y avait...
C'était vectoriel, vous dites, en fait c'était en 3D, un peu comme les jeux Vectrex, ouais, à l'époque,
c'est ça.
Juste les arêtes qui apparaissent.
C'est ça.
Exactement.
C'est un jeu de David Braben, qui est un des grands apôtres de la liberté, et de trouver en fait le fameux Saint Graal auquel on s'intéresse aujourd'hui finalement, qui est la narration au sein d'un monde libre, dont le game designer ne va pas maîtriser chacun des recoins au moins à un instant.
Il n'y avait peut-être pas encore de narration dans Elite à ce moment-là. C'était
non,
surtout
pas du tout. Et moi, c'est ce que je voulais dire. Moi, c'est ce qui m'avait un peu découragé du titre aussi. En fait, c'est que justement, c'est l'effet pervers des bacs à sable, c'est qu'on se retrouve face à un produit où on n'est pas du tout pris par la main. Quand on a l'habitude d'avoir un personnage qui commence au niveau au début,
tableau 1, tableau 2,
voilà, etc. On suit la logique. Là en l'occurrence c'était tout de suite les mains dans le cambouis et pas trop savoir ce qu'on devait faire. Moi ça m'avait un peu rebuté à l'époque.
Alors moi par contre pas du tout. C'est ça qui est très drôle, c'est pour ça que je le disais, que c'est
toi,
l'idée
pas,
du jeu
pas normal,
qui me...
pas comme nous toi en fait.
Non mais c'est intéressant parce que toi t'es plutôt un joueur console aujourd'hui, toi Faskil est évidemment un joueur PC, et finalement c'est un peu ce que réclament les joueurs PC, c'est un peu d'être paumé en plein milieu d'une formule au départ. C'est un peu le cas d'Oblivion par exemple.
Oui, ils ont découvert les consoles
tout
depuis.
À l'heure. Non mais c'est vrai,
c'est un peu le paradoxe, hein.
C'est pas forcément archaïque, c'est un peu une vision différente, quoi.
Oui, c'était une envie différente surtout. Et moi, c'est une envie qui m'a pas parlé à ce moment-là. Enfin, moi, je me suis retrouvé très très vite perdu et sachant pas quoi faire, forcément, au bout d'un moment, on se lasse. Et j'avoue que j'ai pas cherché non plus à aller beaucoup plus loin. Quand j'ai vu déjà la petite grille qui accompagnait le jeu, qu'il fallait coller sur son clavier avec toutes les commandes possibles et imaginables.
Tu mappais ton clavier en fait,
voilà,
pour avoir.
Non, c'était assez intense.
C'est vrai que tu passais des heures d'une planète à l'autre.
Il fallait s'investir.
Enfin, des heures, j'exagère, mais voilà. Mais c'était l'idée de la chose qui était vachement intéressante, parce que finalement tu disais je peux me balader partout et il peut m'arriver n'importe quoi. C'était ça l'idée en fait.
Ce sentiment de liberté,
c'est
peut-être
exactement.
Ça, avant
c'est
l'heure
la
de
première
gameplay.
Fois moi j'ai eu ce sentiment là et j'en garde un souvenir impérissable, et pourtant j'ai pas joué non plus 6 mois au jeu parce que sinon on se faisait chier. Il a tout à fait raison, mais c'était un sentiment incroyable de fausse liberté. Parce que tout le débat il est là en fait.
Voilà, en tout cas donc pour le pionnier, hein, qui laissait un peu comme ça apparaître la liberté qu'elle est représentée en fait, toute l'évolution du jeu vidéo à travers les âges. C'est vrai que on court toujours après cette liberté et dans toutes les révolutions qu'on a connues comme ça, ça a été des passages importants, quoi.
Oui, et si celui-ci est souvent repris comme un pionnier effectivement du jeu open world, c'est parce que c'était peut-être effectivement le premier vrai jeu qui n'était pas articulé sur des niveaux proprement parler, mais sur un seul univers cohérent dans lequel il était en place plusieurs systèmes différents. C'est encore comme ça que ça marche aujourd'hui avec un Red Dead Redemption, plein de systèmes différents, de choses qui peuvent se passer ou ne pas se passer, et qui faisaient que chaque joueur avait une expérience différente de ce qu'il faisait dans ce monde cohérent, avec des limites évidemment, mais il y avait tout un système économique déjà bien élaboré, avec des denrées différentes que tu trouvais à des endroits différents, que tu pouvais revendre de manière différente, avec des batailles ou des événements qui étaient prévus à la base comme pouvant se déclencher, mais tu ne savais jamais quand est-ce que ça allait arriver et ce qui allait en ressortir, quoi. Donc c'était vraiment un jeu très important. Et Braben encore aujourd'hui, parce qu'il fait d'autres trucs, hein. Il fait aussi, c'est lui qui a fait les deux volets WiiWare de, vous savez, le jeu avec le petit personnage qui joue avec le vent, Lost Winds.
Ouais.
Voilà, c'est lui qui a fait ça aussi. Mais il a beaucoup parlé de tout ça et du problème que pose le concept d'open world, qui est très puissant. Et c'est ce qu'on a vu dès le départ, c'est cette promesse d'être dans un monde crédible, cohérent, dans lequel on va pouvoir faire un peu tout ce qu'on veut. Et l'intérêt que ça a du point de vue narratif et du point de vue de justement qu'est-ce qu'on va y faire, quoi.
On parle pas encore de free roaming à l'époque, parce que le free roaming,
non,
c'est un peu l'idée qu'il
n'y a aucun
temps de chargement entre les différentes zones que tu visites, etc. Donc ça, c'est un concept beaucoup plus récent, quoi. On avait vu ça avec Soul River par exemple, on était assez
ébattés
à l'époque.
Oui,
et puis pas mal d'autres jeux même avant. Alors il y a deux jeux qui sont assez intéressants par la suite après Elite. En 86, il y a eu Turbo Esprit.
C'est un jeu de voiture.
C'est un jeu de voiture en fait, et quelque part ça peut être considéré comme une influence pour le futur GTA, hein, qui est pas encore.
Mais
là,
je crois même qu'ils s'en sont revendiqués d'ailleurs.
Ils le revendiquent, ouais, tout à fait. Et il y a même eu juste après, donc en 87 et en arcade, il y a eu un jeu qui s'appelait APB. Alors ça vous dit peut-être quelque chose, parce que c'est All Points Bulletin, c'est ça.
Ouais.
Et c'est un jeu qui va être, c'est pas vraiment remaké, mais il va y avoir une
nouvelle
version.
Ils reprennent cette licence effectivement,
voilà,
et ils en font
MMO.
Un espèce de jeu MMO, flic contre voleur, quoi, grosso modo, qui sera présenté à l'E3 là.
Et lui, quand on le regarde, donc le APB de l'époque, ça ressemble beaucoup finalement au premier GTA, hein, c'est-à-dire des voitures vues du dessus dans une ville un peu en 2D comme ça, mm-hmm. et puis on va se balader librement. Là, on peut peut-être déjà un peu plus parler de free roaming. Donc ça, c'est aussi deux jeux importants, surtout APB, mais dans des genres complètement différents. C'est vrai que quand on s'intéresse un peu au sujet des jeux à monde ouvert, on entend souvent parler de Metroid, et c'est pas mm-hmm. bête du tout, parce que c'est vrai qu'à une époque où les jeux un peu d'arcade, d'action comme ça, étaient divisés en niveaux, level 1, level 2, etc., dans Metroid, on avait un monde ouvert qu'on explorait
ouvert,
au fur et à mesure.
Il était ouvert, oui et non. C'est-à-dire que tu pouvais pas explorer tout le monde dès le départ. C'était pas possible, mais en même temps, j'entends déjà qui me font la remarque, c'est dans GTA 3 non plus, il faut que tu débloques tes
îles. Tout à fait, bien sûr.
Néanmoins, effectivement, Metroid, donc il faut quand même resituer, c'est 1988,
oui.
donc ça commence à bien dater aussi. Était effectivement un jeu d'arcade et de plateforme qui était peut-être un des tout premiers à proposer non pas une succession de niveaux, mais un niveau d'un seul tenant.
Voilà.
Que tu allais explorer au fur et à mesure des capacités que tu allais débloquer et qui te permettraient d'aller dans les recoins dans lesquels tu pouvais pas aller avant.
Un principe encore valable d'ailleurs dans toutes les suites qu'il y a eu, Metroid bien sûr, mais dans tous les Metroid Prime qu'il y a eu aussi plus tard sur GameCube et Wii. Dans tous les cas d'ailleurs, c'est vrai que ça a été aussi une influence pour un jeu qui viendra plus tard, hein, beaucoup plus tard, hein, mais c'est la refonte un peu des Castlevania avec Symphony of the Night.
Exactement le même principe.
Qui reprenait exactement finalement le principe.
En tous les cas, la structure.
Des Metroid, ouais.
Effectivement, mais c'est difficile finalement quand on parle de jeux open world en tous les cas aujourd'hui ou de jeux bac à sable aujourd'hui.
Surtout quand on remonte dans le passé comme ça, voilà, c'est assez difficile.
On a tendance à lier ça vraiment avec, en tous les cas dans l'inconscient collectif des joueurs d'aujourd'hui, un monde free roaming, un jeu open world, c'est un monde qui est forcément en 3D.
Toute façon, dans la tronche de tout le monde, c'est GTA-like. Quoi.
Voilà, c'est ça.
Quand on parle de ça, et c'est vrai que
là, hasard, hein.
Quand on parle de tous ces titres-là, hein, Elite, Turbo Esprit, APB, Metroid, etc., c'est plus ce qui va influencer. Les jeux qui vont vraiment créer le genre.
C'est
quoi,
ça, c'est les racines et chacun de ces titres a apporté quelque chose qui, de fil en aiguille, a abouti à ce qui était GTA 3, qui est pour beaucoup peut-être, on reviendra dessus aussi tout à l'heure, mais le premier jeu open world, et c'est pas pour rien qu'on parle de GTA-like, hein, c'est la même manière que Doom n'est pas le premier Doom-like.
Oui.
Mais on parle de Doom-like.
Oui, voilà. Exactement. C'est vrai que là, on n'arrive pas à se débarrasser encore de GTA-like, comme à l'époque, on n'avait pas pu se débarrasser du terme Doom-like avant qu'on le remplace maintenant, dans quasiment tous les cas, par FPS. Mm. C'est dire à quel point GTA a vraiment influencé, voire révolutionné le genre, mais on y reviendra un tout petit peu plus tard. Il y a eu d'autres titres jusqu'à GTA 3, hein. Il y a eu Hunter en 91 sur Atari ST et Amiga.
Ça, c'était super intéressant, c'était en 3D vectoriel, aussi, mais sauf qu'il y avait des faces pleines. Bon, il y avait des couleurs sur Atari ST, donc tu pouvais remplir les faces avec des couleurs. Et c'était vraiment, alors là, pour le coup, vraiment un monde en 3D ouvert avec des îles différentes.
Et vraiment du free roaming.
Tu pouvais vraiment te balader, tu pouvais chasser, tu pouvais faire pas mal de choses là-dedans. Bon, c'était évidemment, si tu y rejoues aujourd'hui, c'est un peu spartiate, il n'y a pas beaucoup de choses à y faire finalement, mais il y avait déjà des véhicules, il y avait déjà pas mal de choses en fait qu'on retrouve ensuite dans les GTA.
Alors dans les jeux à monde ouvert comme ça, alors on pense à GTA, donc on pense au pam pam boum boum, etc., mais il faut aussi accorder toute sa place à l'aventure et au RPG. Et donc, on va s'arrêter deux secondes aussi sur le premier Elder Scrolls. Alors, Elder Scrolls, c'est...
C'est la série qui a donné Oblivion, pour ceux qui ne connaissent pas.
Voilà. Oblivion et avant Morrowind, d'ailleurs, qui sont tous un peu basés...
Et encore avant Daggerfall.
Et alors, toi, Faskil, je crois que donc tu connais pas mal ce premier Elder Scrolls qui s'appelait Elder Scrolls Arena. C'est sorti en 94 sur PC.
Alors, pas mal. Ça date quand même d'il y a un moment, mais je me souviens qu'effectivement, à l'époque,
t'es vieux.
Oui, bah, je suis plus vieux que toi, déjà.
Oh,
c'était avant ou après Dungeon Master d'ailleurs?
Oh là là, pff, là tu me poses une colle. C'était après.
Bon ben voilà, moi ça m'avait
Mister
fait
P donne la réponse.
Beaucoup penser à ça à l'époque. Et puis c'est vrai qu'il y avait une grande zone de jeu. Il y avait une liberté, mais qui était moins flippante que celle que j'avais vécue dans Elite, parce que là il y avait quand même malgré tout un background,
un
forme de scénarisation
un
et un cadre un peu plus restreint dans lequel on était supposé évoluer.
Puis Elite, c'est l'espace, et tu te dis c'est gigantesque, voilà.
Mais est-ce que tu avais déjà quand même ce sentiment de liberté qu'on a aujourd'hui quand on joue à Oblivion ou à Morrowind? C'est les mêmes bases?
Moi j'y réfléchissais pas à l'époque en fait, hein. C'était pas du tout un concept qui était... Enfin là c'est un peu un concept dont on a fait, dont on parle beaucoup en marketing, etc., pour vendre des jeux, mais à l'époque on jouait et puis on se posait pas vraiment la question de savoir si on était dans un monde ouvert, un monde fermé. Enfin moi en tout cas je... je m'étais pas posé, et c'est peut-être pour ça aussi que je suis resté insensible à l'argumentaire d'Elite où on disait ouais. Voilà, bah, vous pouvez être libre de faire ce que vous voulez dans un univers gigantesque.
Ça vous a pas charmé dès le départ, vous, ça, le fait qu'on
l'idée,
vous promette
si,
un monde virtuel vraiment dans lequel vous pourrez faire ce que vous voulez?
Si, l'idée était charmante, mais c'est vrai qu'après avoir subi le revers Elite, je me suis dit ok, c'est pas pour tout de suite quoi, enfin c'est pas encore maintenant qu'on va pouvoir vraiment évoluer dans un monde. Et oui, des titres comme Elder Scrolls, les premiers RPG en 3D, ça donnait un peu ce sentiment là mais c'était pas non plus j'ai moins un sentiment de liberté que celui que j'ai dans un GTA aujourd'hui par exemple.
Aymeric, le truc qu'il faut voir aussi, c'est que justement ce que t'as vécu avec Elite, c'est que dans la tête de beaucoup de gens, quand on dit open world, c'est genre il y a même pas de limite en fait. Et pourtant la limite et la frontière, enfin je voulais parler de frontière tout à l'heure, mais c'est la limite en fait justement dans un jeu open world est juste super importante parce que ça permet de rythmer quelque part l'aventure, ne serait-ce qu'en termes de déplacement, chose que le problème que t'avais, que t'as supporté sur Elite. Voilà. Donc vraiment, moi je maintiens qu'il faut vraiment que ce soit finalement fermé en fait, pour pouvoir avoir une échelle qui est acceptable et vivable
mais
pour le joueur.
Faut un directeur malgré tout pour progresser dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir un monde ouvert, on peut avoir un monde complètement ouvert dans lequel on est libre d'évoluer comme on le sent, mais comme dans le vrai monde, il y a des contraintes, il y a des choses qu'on est obligé de faire et des passages obligés. Donc c'est pas inintéressant malgré tout d'avoir un mix entre les deux, entre le côté narratif et le bac à sable dans lequel on peut évoluer.
Il y a comme un fantasme comme ça quand on parle de liberté, etc. On pense à une liberté infinie. Il y a toujours un cadre. Hein,
je pense qu'on l'aura pas tant qu'on n'aura pas une IA qui sera capable de simuler des vraies situations, des vraies personnes. On le trouve aujourd'hui dans des jeux en ligne comme EVE Online par exemple, où il n'y a quasiment pas de structure narrative, où c'est les joueurs qui font le contenu en se mettant sur la gueule réciproquement et en inventant des corporations et en inventant des events même. Mais c'est clair que transposer ça dans un jeu plus orienté solo, il faut une grosse IA qui gère derrière pour pouvoir le faire quoi.
C'est même plus une IA à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle de la simulation. Molineux en a beaucoup parlé par rapport à Fable.
C'est son credo.
C'est son credo.
J'empiète un peu sur la suite avec le gameplay émergent, mais ça me paraissait nécessaire d'en parler tout de suite parce que.
Mais c'est ça la panacée en fait de ce genre-là, et c'est probablement ce qu'essayent de faire des gars comme Molineux ou à plus long terme.
Et c'est ce qu'on essayait de faire à l'époque aussi déjà.
Effectivement, enfin, c'est-à-dire en fait de trouver une sorte de moteur, comme on a des moteurs 3D, des moteurs graphiques, des moteurs physiques, etc., des moteurs d'histoire. Des moteurs qui vont faire, et mine de rien, tu prends un Red Dead Redemption aujourd'hui et même auparavant un GTA 4 ou un GTA 3, ces moteurs sont déjà en place, il y a déjà les prémices de ça, des choses qui arrivent, qui sont des événements plus ou moins scriptés, où plusieurs systèmes se rencontrent et font naître une espèce de mini-histoire. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est encore assez peu complexe, quoique pour Red Dead Redemption, j'avoue que l'illusion est déjà parfaite. En ce qui me concerne, en tous les cas. Mais c'est ça le truc, c'est que c'est bien de proposer un monde, mais s'il est tout vide ou s'il passe pas grand chose d'intéressant,
ça manque de rythme aussi, tout simplement. Ouais, enfin, je veux dire, s'il se passe plein de choses et puis que pendant deux heures il se passe plus rien, ça peut pas fonctionner. Mais t'as utilisé un mot qui est super important pour moi, c'est le mot illusion. Je pense que le vrai monde ouvert complet, on l'aura pas vraiment. Ce qu'on cherche à atteindre là maintenant, c'est d'avoir une illusion d'une ouverture.
C'est le même principe que pour les intelligences artificielles. Une intelligence artificielle, par défaut, elle est artificielle. Donc après, on peut la travailler
mais
à mort.
Son but est justement de
te surprendre,
de mimer l'intelligence réelle. Voilà. D'avoir la sensation que c'est crédible en tous les cas. Mais ce qui est fantastique avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle ne fait pas des choses qui sont forcément réalistes. Elle fait des choses qui sont juste crédibles. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je m'appelle John Marston de Red Dead Redemption. J'ai une réputation de taré. Je suis le meilleur gunslinger de tout le monde. Mais il y a quand même encore des gens qui m'agressent. Et tu te dis, c'est débile. Tu sais très bien que de toute façon, je vais t'abattre en duel. Donc, ne fais pas ça. Et si on voulait une vraie intelligence, les gens arrêteraient de faire ça. Mais en même temps, c'est pas drôle.
Ça serait ingérable. Il n'y aurait pas de cadre, comme on disait tout à l'heure. Et on serait un peu paumé. C'est un peu un syndrome. D'ailleurs, on reviendra un peu dessus. Hein, ces jeux, c'est bien de développer des choses comme ça. Il faut après que tu puisses suivre une histoire, t'intéresser et pas seulement te lasser de faire joujou sans but. Quoi.
Et c'est pour ça aussi que GTA 3 a été déterminant. C'est pas seulement pour son approche de l'open world.
Alors on va y venir justement. Alors aussi vite que possible. Hein, il y a eu quelques. Moi, j'avais envie de retenir Landstalker. Je sais pas si vous y avez joué sur Mega Drive à l'époque.
Moi non.
Moi, je le retiens parce que c'est vrai que c'était des petits tableaux successifs. C'était en vue isométrique, mais c'était un des premiers jeux dans lequel j'ai ressenti, voilà, on me poussait pas forcément à aller vers la quête principale, mais on me poussait à faire des trucs à côté, etc. Donc c'était effectivement des petits tableaux, tu vois ça aujourd'hui, c'est sorti sur console virtuelle pour ceux qui ont la curiosité d'aller voir, mais c'était quand même un monde assez global dans lequel voilà, on te poussait à sortir un peu des sentiers battus pour pour aller voir à droite à gauche ce qu'il était possible de débloquer comme, voilà, comme événement, etc. Donc ça c'est assez intéressant. Et quelques années plus tard, trois ans plus tard, c'était en 97, on a retenu voilà, le premier GTA, le premier Grand Theft Auto, qui était très influencé, comme on le disait tout à l'heure, par Turbo Esprit, par APB. Et donc là, bah écoutez, finalement, dans le premier GTA, vous y avez tout joué, le premier GTA à l'époque ?
Un petit peu, ouais.
On retrouve exactement, finalement, ce qu'il y a dans quelques années plus tard dans le GTA 3 en 3D qui nous a mis la baffe monumentale et qui a révolutionné un peu le truc. Ouais. Mais globalement, enfin, je veux dire, on retrouve exactement la même chose, et c'est ça qui avait fait vraiment kiffer les gens à l'époque. C'était cette liberté totale dans une grande ville de pouvoir aller faire des tas de conneries à droite à gauche.
Ouais, sauf qu'à l'époque, évidemment, c'est pas du tout comme GTA 3, c'est vu du dessus, plus comme Chinatown Wars, pour prendre un jeu récent qui a repris en fait ce mode de vue. Donc c'est vu du dessus, mais on pouvait déjà voler des bagnoles, il y avait déjà Liberty City, il y avait Vice City, il y avait San Andreas.
Ah,
tu
sortais de ta caisse, t'en piquais une autre.
Voilà. Ah, justement, est-ce qu'il faut forcément. Excusez-moi, j'interviens.
Vas-y.
T'as la rapace. Est-ce qu'il faut justement forcément avoir de la 3D pour avoir un monde.
Moi je pense que ça a joué un rôle super important, quoi.
On est d'accord.
Moi, en tout cas, dans ma perception, j'ai joué à quelques vieux jeux aussi à cette époque-là, etc. Mais GTA 3, ça a été la baffe, parce qu'on portait enfin toutes ces idées, tout ce principe de liberté dans un monde encore plus crédible, et où finalement la liberté prenait encore plus son sens, quoi.
Moi je dirais que tu peux faire un jeu open world en 2D, mais pour qu'il apparaisse vraiment comme quelque chose d'open world, il faut lui rajouter cette troisième dimension. C'est-à-dire que tous les concepts de l'open world peuvent être déclinés en 2D, mais tu ne seras pas plongé dedans de la même manière.
Bah, il manque l'immersion.
Oui, en grande partie. Oui. Enfin, en tous les cas, aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas forcément de la
3D
partout.
On était plus immergé par l'histoire, par peut-être des possibilités, etc. Mais bon, quand tu calques tout ça après sur un modèle tout en 3D, ça,
la preuve, le premier GTA, il était déjà... assez balèze au niveau de tout ce que tu pouvais faire, mais pourtant ça nous avait pas plus.
Mais le jeu était moche pour l'époque,
ça,
aussi,
parce qu'il était pas très beau. Ouais. Mais pourtant, déjà, je m'en souviens.
En 97, on s'intéressait déjà bien à la 3D, si je dis pas de
conneries. Oui, bien sûr.
Sur
clairement,
PC,
les
premières cartes accélératrices.
Il y avait la PlayStation, il y avait plein de choses.
Oui, tout à fait. La PlayStation, c'est 94, donc je dis n'importe quoi. C'est vrai que c'était un peu daté, peut-être à l'époque, mais voilà. Il prenait le jeu.
En termes de jeu, le game design était hallucinant pour l'époque, mais tout le monde est plus ou moins passé à côté, et c'est pour ça d'ailleurs, tu te souviens, toi, puisque c'était toi qui, à l'époque, Julo avait fait les reportages sur GTA 3 avant que ça sorte.
Ah, mais moi, je suis revenu de ce reportage, j'étais comme un fou.
C'était, un truc de fou, parce qu'à l'époque, les mecs n'étaient pas sûrs. Parce que comme GTA 1 et GTA 2 avaient plutôt pas mal marché, c'était développé par DMA Design, qui est devenu Rockstar North par la suite.
Qui a été racheté, ouais.
Donc, c'est évidemment les mêmes personnes, hein, ça fait partie de tout leur parcours pour arriver aujourd'hui à des jeux comme GTA 4 ou Red Dead Redemption. Mais à l'époque, c'était moche, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient passés à côté, et finalement, la critique n'avait pas forcément épousé le concept dès le départ à cause de ces petites lacunes.
C'est sûr que par rapport au phénomène que c'est aujourd'hui, mais il y a qu'à voir. En termes de communication, hein, comme en Rockstar, vous vous rappelez, à l'époque, on était chez Joypad, nous inviter à voir le jeu en avant-première avant sa sortie, essayer de nous convaincre.
Vous allez voir, c'est génial, etc.
À venir nous voir à la rédaction avec le jeu, etc. Après,
oui, aujourd'hui, c'est
quand
plus
tu vois,
comme ça.
Aujourd'hui, c'est fini, de balancer une manette et c'est terminé.
Non, mais dès le
et encore, c'était de la chance.
Vice City, c'était tout était bloqué, NDA, machin, etc. Ça a complètement explosé. Avec GTA 3. Bon, enfin, on va y arriver tout bientôt. En attendant, on va parler de 2-3 autres titres, et notamment Daggerfall en 96 sur PC.
Alors,
en l'occurrence, vous y avez joué tous les deux.
C'est Elder Scrolls 2, en fait. Hein. Mm-hmm. C'est la suite de Arena. Et c'était. Alors, pour le coup, un jeu vraiment open world, avec des donjons en 3D. Bon, c'était sommaire, évidemment. Hein. C'était pas non plus la panacée. Mais il y avait la 3D. Tout le monde était en 3D. Avec bon, les arbres étaient en 2D, c'était des sprites, etc. Mais techniquement, c'était un monde entier en 3D. Et ce qu'il y a, c'est qu'à ce jour, à ma connaissance, c'est encore l'open world le plus vaste qui n'ait jamais été créé. Parce qu'il était entièrement généré aléatoirement. Il pouvait y avoir plus de 17 000 villes.
C'était de la création procédurale, on dit. Parce qu'on utilise procédural beaucoup pour les animations, mais dans la création d'univers.
Tout peut être procédural.
Les développeurs l'utilisent aussi. La
musique peut être procédurale. Procédural, c'est quoi ? C'est au lieu d'être fait à la main. Note par note pour une musique, animation par animation pour une animation, c'est créé par des algorithmes mathématiques.
Des algorithmes, voilà.
Qui peuvent donc générer potentiellement une infinité de textures, de musique, de paysages, de donjons, de tout un tas de trucs. Donc Daggerfall effectivement était aléatoire, et donc la disposition des villes, la disposition des donjons, ce que tu allais y trouver, etc., tout ça était aléatoire.
C'était différent pour chaque joueur ?
Gigantesque. Oui, pour chaque joueur c'était différent.
D'accord.
Le problème de Daggerfall, enfin, c'est un jeu fondateur et gigantesque, hein, c'est pour beaucoup d'ailleurs encore l'un des meilleurs Elder Scrolls qui ait jamais été fait, c'est que c'était ultra buggé. Du coup, quand c'est sorti, c'était un peu l'horreur. Il y avait vraiment plein de trucs graves, etc. Mais moi, j'en garde un souvenir.
C'était très ambitieux pour
incroyable.
On faisait déjà des SDK parce que le principe un peu des à chaque fois que j'en parle à quelqu'un en tout cas qui joue sur PC des Elder Scrolls, c'est ouais non mais le jeu il vaut rien quand il sort, il vaut quelque chose une fois que tous les joueurs ont mis la main à la pâte et qu'ils ont créé des trucs rigolos avec.
Ouais, bah,
c'était un peu ça déjà à l'époque aussi.
Je me souviens pas si c'était
non,
déjà
pas trop.
Je pense que c'était ça a commencé avec Morrowind en fait ça.
C'était avec Morrowind ouais.
Qui est le premier volet en 3D de cette série donc Elder Scrolls 3 du coup. Voilà, mais effectivement, Daggerfall, c'était n'importe quoi. Enfin, c'était un jeu sans fin, quoi. Tu pouvais pas finir Daggerfall comme ça. En ayant tout fait, c'est pas possible. Tu pouvais suivre l'histoire et finir des trucs. Et finir le jeu, si tu veux. Mais tu pouvais pas tout explorer comme tu peux le faire dans un GTA 3, récupérer tout ce qui a été. C'était pas possible. Donc,
et là,
c'était vraiment. C'était énorme.
Et
c'était,
là, cette immensité, t'as pas fait peur, Fasquille, à l'époque ? T'y as joué ?
J'ai joué un peu plus longtemps que Elite, mais encore une fois, parce qu'on m'a un peu pris par la main, comme dans tous les RPG, avec une histoire et avec des choses très concrètes auxquelles me rattacher. Et. Pas juste, j'ai l'impression, pour Mimi, que je suis en train de massacrer Elite depuis tout à l'heure, mais.
Alors que lui, c'est son souvenir, il était tout bébé c'est... joueur et tout.
N'importe quoi, je garde un souvenir, mais vraiment, l'image que j'ai, c'est d'être devant, de voir les étoiles qui défilaient et d'attendre, en fait. Ouais. Je me rends compte aujourd'hui avec le recul que c'était
que
chiant à mourir.
mais tu t'endormirais.
Mais je te jure que quand j'étais devant, mais j'étais comme un fou, j'attendais qu'une seule chose, c'est qu'il m'arrive quelque chose.
Cosmos.
Mais voilà, et c'est
espace,
ça,
frontière de l'infini.
C'est pour ça que je disais au début, c'est l'idée. De liberté qui est finalement plus important
sentiment même de
que la réalité de cette liberté. D'où l'histoire d'illusion, ce que tu parlais tout à l'heure.
On est super d'accord, hein, mais c'est vrai que le côté d'avoir malgré tout un fil conducteur derrière aide aussi à se lancer dans l'expérience.
Et ça, je l'ai retrouvé beaucoup plus tard sur un autre jeu dont on va parler tout à l'heure.
Bah justement, avançons un petit peu. On a parlé tout à l'heure rapidement de Castlevania Symphony of the Night. Donc, c'est le premier Castlevania refait un peu à la mode RPG, quelque part. Il y avait des éléments d'RPG, mais aussi d'exploration. Et comme on disait tout à l'heure, c'était très inspiré de Metroid dans l'exploration.
C'est exactement le même principe de base, c'est-à-dire au lieu que t'as un donjon énorme dans lequel certaines zones ne sont accessibles que quand tu as débloqué certains pouvoirs pour ton personnage, mais qui est là depuis le départ et qui est d'un seul tenant. Il n'y a pas de chargement.
Je me souviens de la map, c'était gigantesque.
Ah oui,
c'était incroyable.
Mais c'était en 2D, effectivement. Donc, effectivement, à l'époque, c'était très beau, mais c'était déjà sur PlayStation 1 et c'est vrai qu'on était déjà un peu passé à la 3D. Mmh. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté alors que c'était
Mais encore une fois, je le répète, on est dans une définition pour l'instant assez large de l'open world et donc de tous ces éléments fondateurs comme ça qui sont sortis.
Mais
et
effectivement, donc, c'est
il
la
en
même
fait
chose que Metroid.
Il en fait partie, au même titre que Metroid, parce que c'est son aspiration.
Un truc qui est génial, c'est justement de chercher cette définition. C'est que la première chose qu'on a obligé de faire, c'est d'y trouver des frontières, en fait. C'est-à-dire arrêter. Moi, je trouve ça juste. Enfin, l'idée, je trouve ça génial, quoi.
C'est le Far West, quoi. Tu
parles d'open world, je vois un truc énorme et il y a rien devant et je suis libre, je peux aller tout au bout, mais pas du tout, en fait. Le premier truc à comprendre, c'est ça, c'est qu'il faut que ça s'arrête à un moment, sinon c'est injouable.
Ah ouais, mais tout l'art un peu des jeux plus modernes comme ça, comme Red Dead Redemption, c'est d'arriver aussi dans la structure de l'univers, à pas te faire voir ces espèces de murs invisibles qu'on a connus pendant des années et qui nous ont fait chier, quoi. Parce que
tous les murs sont visibles, hein, dans un Red Dead Redemption, mais sauf que ces murs-là, c'est des montagnes gigantesques ou des falaises que tu ne peux pas descendre.
Voilà. Et tu te dis, bon, bah, je vais passer par là, tu passes à gauche, et puis tu ressens pas une frontière comme ça de jeu vidéo, entre guillemets, vraiment pur et dur, qui va te sortir un peu du délire.
Ta
suspension of
disbelief. Tu peux aligner ton compas avec n'importe quelle direction et aller tout droit pendant des heures, quoi.
Voilà. Alors moi, il y a un titre qui me tient tout particulièrement à cœur, mais alors dis
déjà
donc, je m'aperçois qu'en fait on a zappé quelque chose, parce que là en fait j'allais parler de Zelda Ocarina of Time, qui m'a fait ressentir quand même pas mal de choses dans ce côté. Ouais, non, c'était superbe, quoi. Mais avant de parler de lui, parce qu'on l'a complètement zappé finalement. Le Zelda 3, le troisième épisode, Traz, qui est un jeu culte, donnait déjà à l'époque un sentiment de monde complètement ouvert dans lequel tu revenais à droite à gauche,
exactement,
etc., et dans lequel tu agissais librement.
Moi, c'est peut-être c'est le premier jeu
qui t'a donné
le fait
ce
tout court,
ouais,
et pas seulement dans l'univers d'un monde ouvert, dans l'illusion d'un monde ouvert, mais tout simplement parce que, en plus, je l'avais fait en japonais à l'époque, donc il n'y avait pas le côté immersif par rapport au dialogue et tout ça, parce que évidemment,
dommage,
je comprenais rien. Mais le monde, déjà quand t'as Link qui se réveille dans sa cabane, tout ça, t'as compris que
la pluie dehors et
la pluie, l'orage qui gronde,
Il y a l'aventure, et en même temps tu sens que t'as déjà la liberté d'aller faire ce que tu veux,
et là on a l'impression qu'effectivement tout est gigantesque, surtout quand tu vois la carte après qui apparaît petit à petit, tu te rends compte que c'est super grand, et en plus après ça quand tu vois que t'as un monde parallèle, Alors là, tu fais ah oui, c'est quand même très 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 bien foutu quoi. Et
mais c'est vachement important cette sensation d'immensité.
Exactement.
Ouais. Dans les jeux open world et en l'occurrence donc dans Pro Zelda sur Super NES à l'époque, c'est juste des écrans. Hein. Et tu passes
oui, tout
à un côté,
exactement.
Tu passes à un autre écran.
Exactement.
Et ils sont interconnectés et constituent tous ensemble un monde cohérent. Mais si on le cite effectivement aujourd'hui, c'est parce qu'on a cette sensation. Alors à l'époque, c'est très sommaire, mais c'est juste cette sensation qu'on peut explorer partout. Juste explorer.
Exactement. Déjà, ne serait-ce cette que sensation, ça. Je dirais, ça suffit largement à ton cerveau pour comprendre que tu vas passer un super bon moment et que tu peux imaginer effectivement plein de choses que tu peux faire. Quoi.
Ouais, surtout quand t'es un gamin, forcément.
C'est ce qui m'a fait parcourir des kilomètres à Elite, donc j'ai rien foutu. Hein. Mm. Je maintiens, c'est ça, hein, c'est ça dont vous parlez. Je m'en rappelle très bien.
Bon bah Julo aura son Shenmue et Mimi aura son Elite. On a tous compris.
Shenmue on va en parler, ouais, rassurez-vous, voilà.
Mais il arrive pas longtemps après en plus.
Bah pas tellement non. Mais donc je voulais quand même parler d'Ocarina of Time parce que justement ce sentiment là pour moi, enfin Ocarina of Time pour moi, je sais pas, il y a pas mal de gens qui disent best game ever et tout. Moi c'est un de mes plus grands souvenirs vidéoludiques et notamment pour cette raison là. Pour ce côté, voilà, les plaines d'Hyrule qui étaient gigantesques et dans lesquelles bah, tu pouvais monter sur Epona, le cheval de Link, et te balader librement et puis aller voir le gymnase des Gerudo ou aller dans la forêt machin, le donjon truc et tout. Mm. Mais t'avais un vrai sentiment de liberté qui était. Et là encore, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur GTA 3, dû au passage à la 3D, miraculeusement réussi par Nintendo. Mm. Faut dire qu'on l'a dit à plus d'une occasion, hein, les passages 2D-3D ça a été quelque chose de difficile, mais dans le cas de certains jeux Nintendo et notamment Mario 64 qui a rien à voir, mais bon, ouais. Quand même que t'es un open world mine de rien en fait.
Mm, pas trop.
Enfin, dire, mais bon.
Mais pas du tout. C'était des niveaux.
Ouais,
tu fonçais dans un tableau pour aller dans un
niveau. Certes. Mais dans le cas de Zelda, Ocarina of Time, c'était vraiment le premier truc qui m'a marqué à ce point dans ce jeu, c'était ce sentiment de liberté.
Je comprends très bien ce que tu veux dire et j'ai exactement la même image dans la tête où effectivement tu passes par-dessus la barrière et là ça s'ouvre et t'as l'impression que voilà.
Bah, donc, que tout est permis,
exactement.
Que l'horizon
mais
est devant toi et que
c'était quand même structuré. Tu pouvais aller à terme n'importe où, mais pas au début en fait. Il faut voir aussi que t'étais quand même bloqué, t'avais des choses à faire, donc quelque part c'était vachement structuré aussi. C'est ça, il y avait des limites quoi. Quand même.
Mais
Si
tu veux pas que le joueur soit complètement perdu dès qu'il rentre dans la partie, effectivement, il vaut mieux d'abord lui fermer des portes et puis les ouvrir progressivement, quitte à.
Oui, tout en le faisant rêver avec ce qu'il y a derrière.
C'est ce que les Japonais faisaient très bien à l'époque, hein, d'ailleurs. C'est les jeux consoles et qui plus est japonais arrivaient toujours à te faire rentrer très bien comme ça. Et t'ouvrir vraiment l'horizon au fur et à mesure quoi.
Le seul moyen en fait de faire un jeu où il n'y a pas de limite, où l'univers est quasiment infini,
ça n'existe pas, hein, pour l'instant,
c'est de le faire de manière procédurale justement, parce que tu ne peux pas embaucher des gens pour créer une infinité de paysages, de trucs, c'est pas possible, donc il faut les générer aléatoirement et mine de rien aujourd'hui des jeux qui génèrent aléatoirement leurs univers, il n'y en a plus beaucoup, à part Diablo 3 qui va sortir prochainement, qui fait ça depuis les premiers Diablo, pour ses donjons en tout cas, il n'y a plus ça. Parce qu'effectivement, il y a encore des. Ça pose d'autres problèmes en fait. C'est-à-dire que tu peux difficilement scénariser et peupler de manière dense et intéressante des choses qui sont générées encore aléatoirement.
Alors, plus anecdotique, quelques années plus tard, mais tout de même, c'était DMA Design, donc les développeurs
toujours
de GTA,
les mêmes,
voilà,
Rockstar North,
qui avait fait un petit jeu sur N64, Body Harvest.
Ouais.
Je crois que tu t'en souviens, c'était toi qui l'avais testé à l'époque.
Ouais, je m'en souviens vaguement et j'avais pas du tout aimé.
T'avais pas du tout aimé, mais non. Ils avaient quand même essayé de faire rentrer aussi le principe des véhicules, voilà, pour.
C'était la même chose. T'avais un monde en 3D, donc sur N64, graphiquement assez sommaire. C'était l'histoire d'un mec qui devait repousser en fait une menace alien et en essayant d'empêcher les aliens en fait de tuer et d'assimiler des innocents à l'époque, donc il fallait, en plus il y avait une composante d'urgence en fait, où il fallait combattre rapidement les choses avant que ça dégénère, et c'était déjà effectivement un open world dans lequel tu pouvais utiliser des véhicules etc, mais c'était très moche pour l'époque. Et dans mon souvenir, c'était finalement assez peu intéressant parce qu'il n'y avait pas grand chose à y faire.
Il n'a pas marqué vraiment une petite pierre blanche l'histoire.
Non, pas trop, mais
il est
intéressant de le citer parce que c'est par les créateurs
de GTA
aujourd'hui,
voilà, qui cherchaient un peu, qui continuaient à chercher leur formule. Véhicule également, monde ouvert également, Midtown Madness, c'est un jeu assez marquant, mine de rien. Parce que là, on parle depuis tout à l'heure d'action, d'aventure, etc. Mais un jeu bac à sable, donc un univers qu'on te donne comme ça et dans lequel tu vas après utiliser tout ce qu'on te donne pour faire mumuse. C'était un peu le cas de Midtown Madness, donc un jeu de bagnole, tout simplement. Mais c'était dans San Francisco, je crois, Fasquille, c'est ça ?
Je sais plus. Alors moi, j'ai joué à Paris. Je sais plus si c'était le premier ou le deuxième.
Non, le premier, c'était San Francisco, si je dis pas de bêtises, avec ces rues comme ça qui te permettaient de faire des sauts gigantesques. Et en gros, c'est le premier jeu de course à checkpoint. C'est-à-dire que tu es complètement libre d'aller où tu veux dans la ville. Tu dois simplement suivre les checkpoints. Tu peux créer toi-même tes courses et tu joues en multijoueur. À l'époque aussi, c'était un des attraits du jeu.
Et c'est intéressant de noter que ça a été développé par Angel Studios.
Angel Studios, tout à fait.
Qui est devenu plus tard Rockstar San Diego.
Voilà.
Qui sont ceux qui ont fait aujourd'hui Red Dead Redemption.
Voilà, c'est ça. Ils ont, tout ce qui faisait du monde ouvert, ça a été racheté par Rockstar. C'est un peu ça, hein, l'idée.
Oui, bien sûr.
Quelques années plus tard, on va pas rester plus longtemps sur Method Madness, hein, je sais pas ce que vous en pensez.
Ça reste un jeu de course, quoi.
Ça reste un jeu de course.
Avec un univers ouvert, mais.
Peut-être un peu plus marquant tout de même, parce que là, on va faire une petite série comme ça de jeux de course, parce que les jeux de course peuvent aussi être des jeux à monde ouvert, donc. Driver, qui a quand même marqué vraiment son époque sur PS1. Quelqu'un veut en parler de Driver, Traz?
Ouais, vite fait, hein. Bah oui, effectivement. C'était au lieu d'avoir un personnage, on avait une bagnole en gros. Enfin, on avait le personnage, mais on avait quand même la bagnole qui faisait tout le boulot dans ce jeu là. À monde ouvert, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais effectivement,
c'était plus ou moins ouvert. Et surtout,
il y avait quand même une liberté, effectivement, d'aller où tu voulais avec ta caisse.
C'était basé en mission. Ce qui était intéressant aussi, c'était le moteur physique de Driver.
La voiture, c'est vrai que ça c'était un avec gros plus. C'était
avec
très
les suspensions caoutchouc un peu.
Exactement. Ouais. Bah, voiture des années.
Des
70 US, ouais, effectivement.
Il y a un nouveau Driver là, qui va arriver dans pas longtemps. Ils ont été annoncés chez Ubi.
Et alors, plus étonnant, du coup, j'ai envie de parler Crazy Taxi aussi.
Crazy Taxi,
parce que, alors, c'est marrant parce que quand on a préparé ce podcast, on a un peu mis d'abord toute une liste de jeux comme ça qui étaient tournés tous un peu.
En commençant évidemment par les plus évidents,
voilà.
Du genre
et
GTA, etc.
Partie de la définition comme ça un peu ouverte des jeux à monde ouvert, justement, on en est venu à caser tous ces jeux-là. Et Crazy Taxi, c'est purement ça. Hein, c'est un bac à sable, Crazy Taxi.
Oui, c'est ça. C'est du free roaming aussi, en fait. Tu vas d'un point A à un point B, et puis tu chopes les trucs qui t'intéressent sur le passage.
Tu fais comme tu veux.
Voilà.
T'as des missions de temps en temps.
Et les clients apparaîtront pas au même endroit pour tel ou tel joueur. Bon, ça change pas grand chose, mais.
Non.
Enfin, c'est pas très intéressant qu'ils apparaissent à tel ou tel endroit, mais.
Ah, c'était un jeu très fun. Moi, j'ai bien aimé.
Bah, c'est sur Dreamcast, c'était très arcade, mais effectivement, c'était sympa. Ouais.
Moi, j'y ai beaucoup joué sur Dreamcast. Dreamcast, qui, quelques années plus tard.
En 1999.
Voilà. En 1999, fin 99 au Japon, 2000 en Europe, chez nous et aux États-Unis.
Sort
le nouveau jeu de Yu. J'ai nommé Shenmue.
Ah.
Et là, j'ai envie de dire, que vous le vouliez ou non, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est un jeu qui a justement vraiment marqué. Au niveau du coup de tous ces concepts,
une nouvelle étape, ouais,
voilà, une nouvelle étape dans les jeux comme ça à monde ouvert,
dans la simulation d'un monde crédible,
ouais.
Exactement, parce que c'était une vraie simulation, voilà, d'un monde crédible, comme tu dis. Quelqu'un veut en parler peut-être? Emmerich, tu as joué à l'époque?
Je
host aujourd'hui, alors je suis le MC,
oui,
bon, je distribue
là,
les...
T'es mieux placé pour en parler, mais moi je me rappelle d'un truc intéressant, c'est que avant le jeu s'appelait pas Shenmue, mais Free, en fait.
Non, Free, c'est le genre, c'est le nom du genre.
Mais c'était pas Full Reactive Eyes Entertainment, je
tout
crois,
à fait.
Tu te rappelles pas de ça?
Non, mais l'acronyme est tout pourri.
Mais si,
bah c'est vrai.
Si, parce
Full Reactive Eyes Entertainment.
Il a raison, quand t'avais les premières présentations de Shenmue, t'avais le mot aventure qui était barré, RPG qui était barré, etc.
Genre,
et là,
on a créé un nouveau genre.
Et là, on a créé un nouveau genre, Free, Full Reactivized Entertainment.
Exactement.
Et alors, vas-y, alors explique-nous
mais
un peu.
Bah ça m'a vachement marqué parce que, effectivement, c'était. T'arrivais à un endroit et tu pouvais. T'avais l'impression que tu pouvais. Bon, oui, c'est pas faux ce que tu dis, Traz. On pouvait tout toucher, tout. Enfin, on avait l'impression de pouvoir tout toucher.
C'était une sorte de fantasme.
Oui, c'est ça, voilà. C'était, alors qu'en fait, c'était finalement quand même assez limité, on va pas se mentir non plus.
En fait, il a repoussé ses limites, justement. Il les a juste écartées de la perception que le joueur en avait à l'époque.
Exactement, c'est ça. Et puis, bon, c'était quand même. Il y avait une grosse aventure, ça, c'est quand même. Qui était quand même vachement forte, que tu suivais dans le large et en travers. Tu pouvais effectivement. T'avais quelques trucs à côté,
ah bah c'est le fil rouge du jeu.
Du temps que j'ai passé sur le parking à m'entraîner à faire mes bastons, que finalement j'ai pas fait tant de bastons que ça, mais je me suis plus entraîné que j'ai fait de bastons, tu vois.
Ouais.
Mais ça reste effectivement un souvenir incroyable, ouais, bien sûr.
Et alors, Shenmue, c'est pas que ça, hein, comme tu disais, hein, c'était la simulation d'un monde. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on était dans un endroit. C'est cette ville du Japon dans les années 80, on pouvait explorer différentes zones. Alors il y avait des chargements, on peut pas parler de free roaming. Cela dit, on peut parler quand même d'un univers simulé et crédible, parce que selon l'horloge de ta Dreamcast, voilà, le jeu respectait les saisons. Quand t'étais en hiver, il neigeait. Le 24 décembre, si tu te baladais dans la rue, il y avait un mec déguisé en Père Noël qui te disait joyeux Noël.
Il y avait cet
aspect
systémique.
Chaque personnage du jeu avait un emploi du temps.
Ouais, il alors c'est pas Shenmue qui a inventé ça, hein, faut quand même le dire.
Non, mais il l'a fait de manière, et puis surtout avec les grands moyens, en 3D, super ouais. beau, machin,
etc. Et effectivement, si ça a coûté si cher à l'époque, donc c'est, je sais plus, c'est plus de 200 millions de dollars, je crois.
C'est 70 millions de dollars.
70 millions de dollars, ok. C'est aussi parce que cher, justement, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites à l'époque à la main et qu'il fallait des développeurs pour les créer, quoi. Et c'est pour ça que ça a coûté si cher.
Au niveau assets, comme on dit, c'était voilà. juste les assets, gigantesque.
Les assets, c'est effectivement ne serait-ce que la création de tous les objets qu'on peut manipuler dans le jeu, de la salière au tiroir en passant par les personnages et autres, évidemment. Tous ces objets, il faut les modéliser, les texturer, les animer.
Emric.
Eh ben, je viens de paumer mon idée. Tu sais quoi, c'est allé trop vite.
Eh ben, écoute, si,
mais ça va, ça
si,
va,
si jamais elle te revient.
C'est vachement c'est... important en plus. Tu voilà, c'est ça. Ça, ah, non, ça me revient. Ça y est. C'est qu'en fait, il y avait un truc aussi très important qu'on n'a pas encore vraiment abordé, je trouve. C'est pour moi, dans un monde open world, il faut que quand tu agisses, ça ait une répercussion derrière.
Tout à fait. Ouais. Oui.
Et dans Shenmue, t'avais ça. Quelque part, t'avais ça. Et donc moi, ça, c'est ce qui, pour moi, définit finalement plus. Enfin, c'est un des trucs vraiment super importants. C'est-à-dire que voilà, tu vas taper Paul à l'autre bout, ouais. et tu vas aller à l'autre bout du monde, et puis il y a Jacques, son frère, qui va dire putain, t'as tapé Paul. Rien que ça, moi, ça me fait rêver. Quoi.
Ouais, voilà. c'est attenant à la qualité de la simulation, justement.
C'est exactement. Pour ça que tu passes ton temps à tuer tout le monde en Red Dead Redemption.
Mais oui, j'attends qu'on vienne me dire, mais arrête ça. Et le problème, c'est que ça va trop vite, ils me disent arrête.
C'est marrant ça. Quelqu'un qui se demande qui dit, mais pourquoi tu tues tout le monde comme ça?
Voilà,
parce que c'est vrai que dans les GTA.
Ça, c'est marrant, tu vois, parce que justement, Molineux a dit des trucs vachement intéressants par rapport à ça. Au départ. Dans Fable, il était censé être possible de tuer n'importe qui, y compris les enfants.
Ouais.
Ils ont finalement pas pu le faire parce que ça pose évidemment des problèmes
éthiques,
etc. Voilà. Mais Molineux expliquait que lui, ce qu'il faisait triper dans son approche de la simulation, c'était d'imaginer que le joueur pouvait avoir un héros qui allait tuer effectivement des vilains ou des machins, et ensuite rencontrer sa famille et avoir l'enfant qui lui demande « Mais pourquoi t'as tué mon papa ?»
Pourquoi t'as fait ça ?
Mais pourquoi t'as tué mon papa ? Et ça fait partie de ce genre de choses qui crédibilise entièrement les actions du joueur et qui lui donne une dimension complètement nouvelle.
C'est essentiel pour moi, c'est essentiel. Si j'ai pas ça dans un jeu, si je me rends compte dans un jeu open world que j'ai pas ça, je finis par arrêter de jouer.
C'est qu'un joueur normal, un joueur comme nous, on va dire, je sais pas si on est des gens normaux, mais on va dire un joueur comme nous, va obligatoirement chercher les limites, et c'est ce que font la plupart des gens dans les GTA, de cette simulation, justement, voir jusqu'où. Les développeurs ont mis en place des systèmes ou tout l'aspect systémique de tout ça pour pousser ses limites et voir jusqu'où ça ne tient plus.
Mais alors justement, est-ce que le jeu open world n'est pas justement... Enfin, le fait d'être open world ne freine pas justement tous ces trucs-là. Moi, je pense à un jeu qui est absolument pas open world, qui est récent, qui s'appelle Heavy Rain, et qu'on a adoré.
Mais franchement, Julo, j'étais sûr que t'allais parler de ça. Mais parce que, justement, moi, j'allais dire, est-ce que Heavy Rain, c'est pas l'anti-jeu open world?
C'est complètement l'anti-jeu open world. Et justement, c'est celui qui arrive. Par exemple, on parlait de pourquoi t'as tué mon papa, machin, etc. Dans Heavy Rain, tu vas devoir faire des choix assez terribles, mais tu vas en voir la conséquence derrière. Mais c'est parce que c'est scénarisé.
Parce que c'est scripté à mort.
C'est parce
évidemment.
Que t'as le choix entre le choix 1, 2, 3, 4, 5 qui va te mener à un autre embranchement, machin, etc. Notre fantasme, c'est un peu de voir venir ce genre de choses dans des jeux open world, mais c'est, je veux dire, c'est un peu l'antithèse, l'open world. C'est-à-dire, pour arriver à un tel résultat, il faudrait penser à toutes les possibilités.
Mais est-ce que le fait justement de découvrir une possibilité d'interagir avec des choses dans un open world, par exemple, tu découvres un truc qui n'a pas encore été découvert par d'autres joueurs. Donc, tu peux faire en manipulant tel objet, tu peux créer tel truc. Est-ce que c'est pas cette satisfaction-là, est-ce qu'elle n'est pas plus forte que la satisfaction d'avoir un feedback d'un script où on essaie de t'impliquer dans
Ça dépend, est-ce que c'est le jeu qui te dit que t'es le premier à l'avoir trouvé? Donc est-ce que c'est scripté? Ou est-ce que c'est toi qui va fouiller sur un forum, qui va découvrir que t'es le premier à l'avoir découvert, et encore que...
Je prends un exemple, et là encore j'empiète sur ce qui est gameplay émergent et consort, mais...
Il n'y a pas un pet de gameplay émergent dans Heavy Rain, c'est l'antithèse.
Le gars qui a découvert le Rocket Jump dans Quake, il y en a bien un qui l'a fait en premier. Quoi.
Ah, effectivement,
il a dû se dire, mais attends,
alors, petite explication, le Rocket Jump dans Quake, vas-y, explique-moi.
Le Rocket Jump dans Quake, à la base, c'était pas prévu.
C'est la meilleure définition du gameplay émergent qu'on puisse donner. C'est
les joueurs qui se sont rendus compte que quand ils tiraient une roquette par terre, qu'ils sautaient en même temps, ils sautaient beaucoup plus haut et qu'ils pouvaient le faire parce qu'ils prenaient pas trop de dégâts. Enfin, pas assez en tout cas pour mourir. Ça n'a pas été prévu dans le game design. Voilà, moi je pense que si des choses comme ça peuvent se passer dans les open world, où justement on les bac à sable, où on se retrouve à bidouiller des trucs jusqu'à réinventer des choses qui fonctionnent et que personne n'a encore fait, oui, ça peut être, à mon sens, plus intéressant que d'avoir un feedback scénaristique scripté. On essaye de t'impliquer dans une histoire qui est déjà écrite et dont les tenants et les aboutissants sont déjà connus.
Moi, je pense que c'est essentiel, par contre. Je pense vraiment que tu peux, au lieu de les voir comme antithèse l'un de l'autre, plutôt de les voir en superposition l'un de l'autre. Moi.
Pour moi, c'est des approches différentes de la manière dont on peut repousser les limites de l'interactivité pour proposer à un joueur de vivre sa propre aventure. Voilà. Je les vois plus comme ça, et c'est vrai que Heavy Rain, donc lui, il prend une méthode que je dirais presque empirique, en fait, c'est-à-dire on va écrire tout ce qui est possible.
Ouais.
L'open world cherche à simuler par un ensemble systémique les possibilités auxquelles seront confrontés les joueurs.
Pour qu'elles soient vraiment infinies et que tu n'aies pas juste l'impression qu'elles soient infinies.
Qu'elles soient vraiment différentes, effectivement, pas qu'il y en ait juste plein, en fait. Mais après, il faut voir comment ça marche auprès des joueurs, parce que finalement, le truc, c'est que le fait d'écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires différentes, c'est le cas des Viren, en fait, finalement, c'est la même histoire, grosso modo.
Oui, mais quand tu as une histoire, est-ce que tu as besoin d'avoir une infinité de possibilités? Finalement, quand tu te retrouves dans une situation donnée, en général, on a deux ou trois façons de réagir face à une situation donnée.
Oui, mais c'est ça la valeur des Viren, c'est qu'elle offre le choix de vivre l'histoire de manière complètement différente aussi, exactement comme ce que est censé proposer un open world. Sauf que, par exemple, l'histoire de Red Dead Redemption ou d'un GTA, elle est beaucoup plus linéaire que dans un Heavy Rain. La plupart des joueurs vont vivre la même histoire, en fait. C'est ce qu'il y a à côté qui est ouvert. Ouais. Alors que dans Heavy Rain, c'est l'inverse. Il n'y a pas d'à côté du tout, il n'y a rien à côté, c'est juste l'histoire. Par contre, tu peux la vivre de plein de façons différentes. Donc pour moi, c'est deux approches différentes qui cherchent vraiment à éloigner les limites le plus possible pour qu'on ne les perçoive pas.
Mais on peut aller au-delà aussi de la différence au niveau de la manière dont l'histoire est vécue. On peut avoir des jeux, moi j'y avais pensé tout à l'heure, c'était Hitman, où en fait on a globalement une succession de niveaux très classiques.
C'est des niveaux,
on a une histoire avec un début, une fin. Sauf qu'à l'intérieur de ces niveaux, on est dans un mini bac à sable, où on a une infinité, mais en tout cas un grand nombre de possibilités pour parvenir à ses fins sans encombre.
Et c'est tellement drôle. Parfois.
Et voilà, c'est super fun. Enfin, moi, je trouve ça super jouissif. Ouais. On n'a pas besoin d'avoir non plus un monde. Enfin, je pense pas que la notion d'open world va forcément être liée à une grandeur ou à quelque chose de très vaste.
On les met souvent ensemble, open world et bac à sable, mais finalement, c'est deux notions qui peuvent être aussi séparées l'une de l'autre. Hitman,
mais
c'est
tu peux avoir des unités de bac à sable au sein d'un jeu qui est pas open world.
Voilà,
en fait, ouais.
Tout à fait. Bon, et si on revenait à notre petite historique là, parce que sinon on va jamais s'en sortir. On va arriver au moins jusqu'à GTA 3 pour parler de cette espèce de bascule GTA 3. On a eu Midnight Club, Street Racing, tu le disais tout à l'heure, à Angel Studio qui a été ensuite.
Ouais, c'est le jeu qu'ils ont fait après Midtown Madness.
GTA après Midtown Madness. Donc c'était un Midtown Madness-like sur PS2.
2000.
Voilà, c'était tout à fait. Et on avait aussi cette impression de liberté. C'était quelque chose qu'on connaissait assez déjà. C'était bien loin de la révolution de Grand Theft Auto 3.
Qui est
sorti l'année suivante. Et là, j'ai envie d'entendre un peu vos réactions à tous sur moi, ce que je considère, hein, quand on a préparé ce podcast aussi, on s'est dit la vraie bascule, c'est GTA 3, clairement, dans le cadre des jeux à monde ouvert.
Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, je me souviens en tout cas que c'est le premier jeu auquel j'ai joué en essayant de faire absolument tout ce qui était possible pour pervertir le jeu dès le début.
Et où t'étais surpris de voir que ça pouvait marcher.
Et que ça marchait. Voilà, c'était ça. C'était essayer de découvrir, de prendre les développeurs en défaut en disant ouais, mais non, mais ça, ils y ont pas pensé, si je fais ça, machin et tout. Et en fait, de se rendre compte que la plupart des trucs fonctionnaient et avaient, comme disait Mimic tout à l'heure, une vraie incidence sur le monde et que c'était, oui, ça, rien que ça, déjà, c'était ultra jouissif. Quoi.
Ouais, c'est le fondement de l'interactivité quand même.
Oui, complètement.
Et tu produis une action, il y a une réaction.
Il y a une réaction. Voilà.
C'était le jeu où je passais le plus de temps à faire du free roaming qu'à suivre l'émission, en fait, suivre le scénario.
Parce que t'es là, entre un objectif et un autre, t'as toujours un endroit où aller, un truc à faire, et quelque chose qui te surprend, qui t'interpelle, et puis tu y vas, et il se passe quelque chose.
Moi, je suis exactement comme Fastkill, j'avais fait exactement la même chose, même si j'avais fini le jeu, mais c'est vrai que j'étais plus pour justement faire un peu n'importe quoi que suivre des missions. Moi, globalement, les missions, même si elles sont importantes dans les jeux, parce que sinon, ça serait à mon avis injouable et trop de liberté, à mon avis, tu la liberté, mais
cela dit, c'est justement.
Oui, c'est un petit peu le fond du sujet aussi.
Mais c'est, oui, non, je suis tout à fait d'accord.
Toi, t'as fait la guérilla urbaine quoi, dans GTA
3. Oui, c'était ça qui était drôle. Quoi. Effectivement, j'ai passé tellement plus de temps à tout défoncer, tout casser et tuer des milliards de gens qu'à faire les vraies missions qui me barbaient pas, mais qui m'intéressaient pas plus que ça. Quoi.
Dans nos petites notes du podcast, quand on tournait un peu autour de la définition, j'ai un petit mot de trace que j'adore. Alors, le concept sera forcément une illusion tant que la technologie ne nous laissera pas toute latitude de faire vraiment ce que l'on désire. Certes, Trace, tu as tout à fait raison, mais il enchaîne. Le jour où on pourra se balader, entrer dans toutes les maisons d'une ville, défoncer le crâne de ses habitants, alors je serai giga jouasse. Et on pourra parler de monde supra ouvert. C'est un nouveau concept que je viens d'inventer. C'était la petite phrase de Trace.
Voilà, et après on passe pour supra
ouvert du crâne.
Des ouf.
Non, mais tout va bien, je vous rassure. Hein. Pourquoi non, pas un jour avoir effectivement, bon, ça, on pourrait finir là-dessus, j'en sais rien, mais pourquoi pas un jour effectivement transposer un monde ouvert mais réel,
mais
tel que Google Earth peut le créer,
voilà,
tu vois, mais
ça,
que les gens le créent en 3D,
de l'ensemble de la planète et de faire ce qu'on aimerait bien tous faire,
là,
ce qu'on a tous pensé un jour, c'est de rentrer chez les gens,
exactement,
de voir exactement
de
comment ils vivent, de
on
faire
y
tout
va
ça.
Tout droit, non, enfin peut-être pas
dans 25 ans,
rapproché
ouais,
vraiment au monde réel, mais que ça soit vraiment une expérience comme ça où on ait la sensation de faire exactement ce qu'on veut.
Ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas le faire à la main, ou alors il faut employer la Chine entière.
Parce que vous voulez, c'est un loft en vrai, en grand, en fait, c'est ça, c'est un grand loft en fait, vous voulez.
Si on veut observer les gens,
aller
voir
directement
planétaire,
chez eux, ouais. Et après tu fais n'importe quoi, voilà, c'est ça.
Ah oui, oui, oui.
Ouais. Vous êtes des voyeurs comme.
Comme toi, comme toi. Sauf que nous, on met pas des balles dans la tête des gens qui sont à terre.
C'est bon, c'est même pas parce que j'ai passé deux heures à l'aide à défoncer chez moi pour voir ce qui se passait. Mais j'aime ça en plus.
C'est vrai que ce qui était génial dans GTA, pour en revenir à GTA 3, donc, c'était. Moi, je me souviens d'une mission par exemple où tu devais. C'était scénarisé, on est d'accord, hein, c'est-à-dire que tu devais quand même aller récupérer des missions pour faire avancer le scénario. C'était mission 1, mission 2, machin, oui. Etc. Mais t'avais comme ça une narration sur différentes missions à la suite les unes des autres, et tu pouvais par exemple d'abord espionner un mec, savoir où est-ce qu'il allait, etc. Puis ensuite aller le choper à la sortie du resto où il va le dimanche. Enfin, le dimanche, non, il n'y avait pas de notion de semaine, oui. Mais bref.
Si, il y avait des jours. Il y avait des jours, mais c'était pas très important, mais il y en avait.
Et en tout cas, il y avait la fonction journouille, etc. Mm. Et finalement, tu devais l'enlever et le mec le foutait dans le coffre de sa bagnole. Et après, tu devais te débarrasser de lui et tu devais le tuer, quoi. En gros, c'était un peu ambiance film mafieux, machin, etc. Et je me suis dit, ok, mais je fais quoi? Alors je me suis dit, bah, j'ai plusieurs possibilités. Je dirais, bah, je vais sortir de la bagnole, je vais la bastonner et, en attendant qu'elle explose et le mec va mourir dans le coffre, etc. Et je me suis dit, tiens, non, si on le faisait plus à un délire mafieux, etc. Voilà, et j'ai été au port et j'ai mis la bagnole au bord de l'eau et je suis sorti de la bagnole et je me dis, ça va marcher ou pas? Je pousse la bagnole, le mec est toujours dans le coffre, la bagnole coule et là, mission réussie, etc. Mm. Donc, c'est effectivement tous ces trucs-là qui étaient assez incroyables dans GTA.
Mais c'est la meilleure récompense que tu puisses avoir finalement, c'est de te dire, et c'est ça l'illusion que plein de jeux font en dehors d'ailleurs du genre open world, c'est de donner au joueur la sensation que c'est par son propre cerveau, sa propre astuce, etc., qu'il arrive à une forme de plaisir ou une forme de complétion d'objectif. Et ça va même dans le côté pervers du truc, c'est-à-dire je vais détourner les systèmes du jeu, c'est-à-dire tricher en fait, pour parvenir à mes fins, voire la meilleure manière possible, et je serai plus malin que les développeurs qui ont fait le jeu, quoi. Et ça fait partie beaucoup des plaisirs qu'on peut avoir dans l'open world, effectivement, que ça soit dans un jeu pas vraiment open world comme Hitman. Ou les GTA, où effectivement tu peux trouver des raccourcis à des missions qui pourraient paraître compliqué à
mais
finir.
Je pense que le point commun entre les deux, entre GTA et Hitman par exemple, c'est qu'on avait cette sensation, au-delà des missions, au-delà du corps du jeu et de la scénarisation, on avait cette sensation qu'autour de nous, le monde continuait d'avancer. Ouais. Même si c'était pas le cas, et même si ça, on le ressentait beaucoup moins dans un Hitman, mais les personnages vaquaient à leurs tâches habituelles. Il y avait une représentation théâtrale dont je sais plus quel Hitman qui était en répétition, et chaque fois qu'on passait dans la pièce, c'était pas le même qui était en train de répéter, c'était pas la même scène, enfin il se passait plein de choses. Et on pouvait tout à fait rester là une heure à se balader dans l'univers du jeu et y avoir des choses se produire sans qu'il soit besoin de faire avancer le gameplay, en fait. Et c'est un peu, enfin, c'est pour moi le point commun entre les deux. C'est, on a ce sentiment là à la fois dans GTA et dans Hitman.
Complètement, ouais. On va passer un peu à la suite parce que GTA 3 c'est un jeu quand même qui a fait qui a eu l'effet d'une bombe un peu dans la tronche de tout le monde et de tous les développeurs, hein, qui préparaient leur jeu. Le premier GTA en 3D, donc cette nouvelle, c'est une vraie formule en fait qui a été réutilisée dans plein d'autres jeux par la suite. Alors on va citer par exemple, tiens Emric, tu m'as sorti un jeu de nulle part, j'avais complètement oublié, et c'est vrai que
Elite.
Non Elite 2002.
Elite 2.
C'est Spider-Man 2. Voilà,
ouais,
un jeu
fait,
développé,
ouais,
par Treyarch, et par rapport au premier, il s'était vachement inspiré finalement de ce genre de monde ouvert.
Alors le premier, c'était effectivement une question de niveau classique. Le jeu était pas mauvais d'ailleurs, mais bref, c'est une aparté. Et moi, je me rappelle, ils m'ont présenté ça à l'E3, je sais plus, bon, avant que ça sorte, hein, donc c'est 2001, j'imagine.
C'est sorti en 2002.
C'est sorti en 2002, donc j'ai dû le voir en 2001. Et le mec me disait, en gros, c'est un GTA dans Manhattan, quoi, avec Peter Parker en Spider-Man. Et je trouvais que ça se prêtait vraiment bien à l'univers de Spider-Man. Et en fait, bon, c'était simple. T'avais en gros une trame scénaristique qui revenait régulièrement, et entre temps tu te baladais, t'avais un mec qui se faisait agresser à droite, un autre qui se faisait agresser à gauche, un qui se faisait enlever, tu pouvais accomplir des courses, des parcours en fait, sur les immeubles, etc. Mais ce que j'ai trouvé vraiment génial dans ce jeu là, c'est que finalement le scénario arrivait à te rappeler à rappeler le joueur sans vraiment le frustrer. C'était super bien dosé. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait de voir, voir le monde libre en superposition avec l'histoire par-dessus. Mmh. Et c'est vraiment d'où l'histoire des frontières et des limites, où il faut vraiment équilibrer tout ça, trouver un équilibre narratif pour ramener le joueur sur une trame scénaristique. Et moi ce jeu-là, je l'ai retourné dans tous les sens, je ne l'ai pas lâché. Parce que outre le sentiment de liberté que tu avais en te baladant rien que d'un immeuble à l'autre, tu avais
ça,
vraiment...
Ça, c'était génial,
oui. Ça, déjà, tu avais ça qui était super. Mais derrière, tu avais surtout cette impression que tu te balais sur les toits, puis en dessous, il se passait des tonnes de trucs. Alors que c'est pas vrai, il n'y avait pas des millions de trucs non plus. Mais ça s'y prêtait super bien pour Spider-Man. Vraiment.
Alors, dans des genres, mais alors encore plus proches de GTA, on sait que il y a eu par exemple Mercenaries. Je sais pas si vous avez joué à Mercenaries.
Ouais,
c'était juste un GTA-like, mais dans un autre environnement.
C'est une sorte de Just Cause.
Exactement, et j'avais cité Just Cause. Just Cause, c'était pareil, sauf que c'était plus gigantesque. Il avait accompli tout un tas de trucs assez sympas, Just Cause. Mais finalement, tout ça, c'est vraiment des jeux basés stricto sur le modèle de GTA, quoi, de GTA.
À l'exception
3.
Que dans le cas d'un Just Cause par exemple, là où GTA 3 déjà essayait d'utiliser tous ces systèmes pour proposer des missions très différentes, dans un Just Cause ou dans un Mercenary, c'était vraiment que de l'action. Et donc c'était vraiment un très bas du front, ce qui est vachement intéressant parce qu'ils se sont concentrés.
C'était un défouloir.
Voilà, notamment sur Just Cause 2, sur tout le moteur physique qui fait que tu fais péter des immeubles entiers, machin. Donc c'est jouissif de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que, à la différence de GTA, il n'y a pas finalement beaucoup de systèmes qui sont en place. Il y a des mecs qui se baladent, il y a des choses qui se passent, mais tu n'as pas un véritable écosystème chaque fois poussé plus loin à chaque nouvelle itération, comme peut le faire Rockstar, et en l'occurrence avec Red Dead par exemple aujourd'hui, quoi.
Tout à fait.
Donc ça c'est assez simple. Donc ça ressemble plus un peu à un ersatz qu'autre chose, quoi. Même si ça reste très agréable comme expérience.
Alors on passera aussi rapidement sur Saints Row, hein, qui était alors lui pour le coup une copie vraiment de GTA, mais un peu plus bling bling. GTA 3 a aussi pas mal influencé mine de rien du côté du Japon. Et avec une série qui est très très populaire là-bas et qui est un peu moins ici, c'est Yakuza. Yakuza, c'est vraiment un jeu, c'est un jeu open world aussi, qui est un peu basé aussi sur des missions, etc. Sauf que là, au lieu d'aller buter des mecs au flingue, tu les bastonnes à coups de poubelles que tu trouves à droite à gauche. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a vraiment comme ça tout un tas de jeux, et donc même au Japon, qui ont été vraiment mais complètement influencés par GTA 3, qui a véritablement changé la face du jeu liberté, du jeu free roaming comme ça.
Et il faut dire aussi d'ailleurs que GTA est un des rares jeux occidentaux à avoir
plutôt aussi bien marché au Japon.
Voilà, aussi bien marché au Japon. Des jeux typiquement occidentaux, hein, à ma connaissance, il n'y a aucun.
C'est parmi les premiers qu'on a pu retrouver dans un top des meilleures ventes, etc. C'était très très rare à l'époque, ça l'est un peu, voire beaucoup moins aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'était un petit succès en tout cas pour un jeu occidental.
C'est vrai.
On va parler également, il y a eu pas mal d'autres trucs, hein. Alors j'ai envie de parler de Stalker aussi, qui m'avait pas mal. On passe un peu vite fait sur Oblivion, parce qu'Oblivion finalement c'est un peu le redit de Morrowind.
Oui, qui est lui-même l'évolution de Daggerfall.
Qui était super bien aussi, hein, parce que tu te sentais complètement libre.
Pas mal démocratisé en fait à l'époque, c'est-à-dire que les gens ont vraiment découvert ce type. Enfin, un peu comme World of Warcraft a été la démocratisation du MMORPG, pour moi Oblivion c'est vraiment le jeu qui a démocratisé le genre auprès du plus grand nombre, encore peut-être pas plus que GTA 3, mais
pour moi, pour un RPG occidental, si.
Ouais, enfin pour moi, ça a été
dans ce genre-là.
Tout le monde, enfin moi j'en parlais, je me rappelle, je connais pas le monde entier, pas encore, j'y travaille, mais mais voilà, c'était vraiment tout le monde parlait de ce jeu-là, c'était une révolution, surtout sur PC. Je crois que ça arrive un petit peu après sur
Morrowind ou
console.
Oblivion, je crois que
c'est en même temps. Ouais, je sais plus. Moi, je l'avais fait sur PC, je me rappelle, et c'était la révolution plus que GTA pour moi, tu vois. Parce que moi, GTA, par exemple, je suis passé à côté.
Mais GTA,
c'est pas vrai.
Si, je te jure, je suis passé.
Possible donc.
Mais GTA était encore un jeu d'action. Oblivion avait quelque part été plus ambitieux.
Oui,
il était vraiment du RPG. Tu pouvais t'inscrire à plein de guildes différentes, suivre ou non ce qu'elles te proposaient, te balader vraiment partout, explorer les donjons sans jamais suivre vraiment l'histoire principale, faire évoluer ton personnage. Ce qui n'est pas arrivé dans GTA vraiment avant San Andreas, qui est le premier volet des GTA à avoir proposé quelques composantes RPG pour que ton personnage évolue en parallèle de l'histoire et du reste.
Est-ce que l'un de vous peut nous parler aussi de Stalker? Moi, j'y ai pas joué personnellement,
oui,
mais
c'est
je
vrai
dois
qu'on
dire
on parlait
c'est...
de ça tout à l'heure.
Oui, on allait parler de Stalker.
Et Stalker, c'est un open world à moitié en fait. C'est,
en FPS
c'est...
cette fois.
Ouais. Bon, il y a des quêtes aussi. Il hein. Y a des personnages à qui tu parles. Il y a de la, il y a un mini système économique, etc. Et tu explores cette fameuse zone donc autour de Tchernobyl en vue à la première personne. Le fait est que par contre, la zone elle-même est divisée en zones de moins grande superficie. Donc à la différence. Vraiment d'un GTA où tout le monde est d'un seul tenant et quand t'arrives vers la fin du jeu et que t'as tout débloqué tu peux tout parcourir sans jamais t'arrêter, tu peux pas le faire dans Stalker, il y a des chargements quand même d'une zone à une autre, mais c'est vrai que c'est un pur FPS très ouvert en fait, voilà. Enfin un pur FPS non, je veux dire c'est un FPS très ouvert des
et ça fait des sensations pures,
c'est ça, voilà, c'est ça que je voulais dire, des sensations radioactives pures.
Oui, bien vu.
C'est voilà, pur Tchernobyl, tout ça. Mmh.
C'est surtout son ambiance qui vaut,
oui, c'est
qui
ça.
Est très très réussi. Mmh. Ouais.
On va également parler de, parce que mine de rien, alors on disait tout à l'heure le jeu à monde ouvert adapté à des genres qui a priori ne lui correspondent pas trop. Les jeux de bagnole, on parlait tout à l'heure. Également les jeux de skate. Hein. Il y a eu une révolution aussi grâce au jeu d'Electronic Arts Skate, qui a été mine de rien un jeu de skate en monde ouvert aussi. Ça a changé beaucoup de choses. Mmh. J'ai envie de parler également d'un autre jeu, et cette fois c'est un jeu de Rockstar et il a pas eu un très très grand succès, et malgré tout c'était un super jeu. Je crois que tu y avais joué à l'époque avant, et c'est marrant parce que Rockstar se singeait déjà un petit peu,
ouais,
et c'est Bully. Ah, c'est-à-dire oui, la preuve qu'on peut adapter cette formule, oui, à des genres complètement voilà, différents, et là notamment on était,
oui,
dans l'école.
Ouais, effectivement, mais ça reste un GTA-like.
Et c'était
dans
un
le
pur
principe.
GTA-like.
Sauf qu'effectivement, t'as pas la superficie d'un San Andreas, ça se passe sur un campus. Donc c'est en fait en termes de superficie c'est relativement limité, mais effectivement tu vas aller en cours ou ne pas aller en cours, à toi de voir, hein. Il y a des horaires, les cours se succèdent les uns les autres, tu vas croiser une galerie de personnages, ce qui est très très important dans les Rockstar, qui sont tous assez en couleur, donc d'autres étudiants, des étudiantes, des Bully en anglais c'est ceux qui foutent la merde dans la cour d'école, qui maltraitent les autres, etc. Et donc effectivement tu passes de mission en mission un petit peu comme tu veux, avec aussi des choses facultatives à côté à réaliser au sein d'un campus, donc c'est le même principe dans un lycée, quoi, dans un lycée privé, voilà. Et c'était un très bon jeu effectivement qui est un petit peu passé à,
ouais, tout le monde est passé un peu à côté, c'était vraiment très très bien,
mais voilà, encore une production Rockstar effectivement qui reprend toujours cette même formule où tu, finalement tu choisis à quel moment tu vas faire progresser l'histoire, et en passant, enfin avec un ordre relativement libre.
Bon, alors justement, est-ce que voilà, on en est à ce stade de l'histoire un peu du genre, et puis on se dit quand même, enfin je sais pas quelle est votre impression, mais est-ce qu'on commence pas à tourner en rond? Alors tu nous parleras un peu plus de Red Dead Redemption tout à l'heure, mm-hmm, mais est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout d'un concept, et comment vous voyez en fait l'avenir?
On n'a pas parlé de Shadow of the Colossus.
Tout à fait. Bon, comment j'ai pu passer à côté?
Eh oui, 2006, qui est un monde ouvert, et qui est typiquement en fait, alors qui est à l'antithèse d'un GTA, dans le sens où dans le monde lui-même il n'y a pas grand-chose à faire.
Mais justement, et c'est un...
et effectivement, comme on l'a déjà dit dans d'autres émissions, pour le coup, assez paradoxalement finalement, bah, et pour beaucoup de joueurs qui ont évidemment adoré ce jeu de Beda, c'est le fait que le monde soit entièrement vide qui lui donne cette crédibilité.
Bah disons qu'il a une histoire. On sait qu'il a été vidé des êtres humains.
C'est une zone interdite,
voilà.
Voilà, dans laquelle vivent les colosses. Et ce sont les seuls, finalement, à part quelques petites bestioles, pas d'aussi de là, des lézards et des conneries comme ça, qui vivent dans ce monde. Et effectivement, comme c'est cohérent vis-à-vis de l'univers et de la proposition narrative qu'on te fait dès le début du jeu, finalement, ça l'appuie. Et ça lui donne une force. Et entre chacun des colosses, qui représentent en fait... chacun des niveaux du jeu finalement, on est libre de se balader un peu n'importe où comme on veut, même s'il y a rien
ça n'a aucun intérêt, ouais, c'est ce que j'allais dire, voilà.
Ça n'a aucun intérêt ludique en soi, mais ça a un intérêt narratif.
Ça n'en a pas beaucoup plus dans GTA non plus en fait, hein, quand tu t'amuses à piquer des bagnoles et à écraser des gens,
clairement,
tu peux le faire pendant une heure en te marrant, mais c'est vrai que ça n'apporte rien au jeu,
à part le côté jouissif et tester des choses,
voilà.
C'est vraiment,
que tu ferais pas dans la vraie vie. Voilà.
Et finalement, je pense qu'on pourrait...
Vous m'énervez beaucoup.
Ouais. En étant assez... comment dire, en résumant les choses à mort, on pourrait considérer que finalement, dans tous les GTA-like, etc., le monde ouvert et tous ces systèmes à l'intérieur, ce n'est qu'un menu de sélection très évolué. Mmh. En fait, un menu de sélection de missions, de niveaux, et c'est tout. On pourrait considérer que c'est ça, finalement.
S'il lui manquait finalement ses missions, ses petits à côté, etc., on aurait un syndrome de vide, quoi. Ça nous poserait un vrai problème. Alors que dans Shadow of the Colossus, pas du tout. C'est le contraire.
Bah, nous, non, mais tu sais, Julo, je crois qu'il y en a d'autres qui lui reprochent. Donc,
oui, il y a pas mal de gens, il a divisé ce jeu. Traz.
Voilà, moi je pense qu'ils ont très bien fait en tout cas de le faire. Mais,
ah non, moi j'ai beaucoup aimé.
T'as aimé Shadow of the Colossus?
T'as pas saoulé les à côté, justement, l'aspect
si,
balade où il y a
si,
rien
si,
à
un
faire.
Petit peu, mais pff, j'en avais déjà vu pas mal avec tous ceux qui l'avaient fait avant moi, que bon, ça m'a donné envie d'avancer, quoi. Mais ouais. Bon, après, c'est vrai que ça peut être un petit peu barbant de voir qu'entre deux,
en tout
deux
cas,
gros
il est
combats,
vraiment,
bah voilà, il se passait pas grand chose.
Il est vraiment à part, Shadow of the Colossus.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut dire en fait.
Dans cette liste là, et surtout à ce stade là, en fait, hein, de l'histoire des jeux à monde ouvert, comme ça, c'est vrai qu'il est, oui, il est complètement à part.
Mais c'est un vrai jeu à monde ouvert.
Et c'est un vrai jeu à monde ouvert.
Mais je crois que ces jeux, et depuis Elite jusqu'à Shadow of the Colossus, jusqu'à Red Dead Redemption, en fait, ils jouent simplement sur,
c'est un vrai
sur la
jeu
fibre de l'explorateur, quoi. C'est que ne serait-ce que explorer un monde qui est beau, ou qui est crédible, ou dans lequel tu imagines que tu vas pouvoir découvrir des choses, ne serait-ce que ça en appelle finalement à des valeurs d'aventure qui remontent à très loin dans l'humanité depuis, enfin je veux dire, si les colons se sont emmerdés à prendre des bateaux pour aller découvrir l'Amérique, c'est juste parce qu'ils avaient envie de voir qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté de la mer.
Tu rêves, c'était pour la thune.
Ouais. C'était peut-être pour la thune aussi, effectivement, mais enfin je veux dire, il y a quand même une fibre de l'aventurier dans la nature humaine qui a envie d'explorer, d'aller voir au-delà de ses perceptions et d'aller toujours plus loin pour voir ce qu'il y a après. Et je crois que ces jeux en appellent vachement à ça, en proposant justement des superficies gigantesques, et que le simple fait d'explorer quelque chose qui est beau procure déjà du plaisir au niveau ludique, même si ça suffit pas, hein, évidemment, mais bon. Enfin voilà, je vous ai tous endormis, c'est ça.
Non, pas du tout. C'était la minute philosophique.
Percé par tes paroles.
Voilà. La poésie de Shadow of the Colossus, ça
bah oui, mais transpirait. C'est ta faute.
Tu nous as.
Ueda, sois maudit.
Bon, dans tous les cas, mon cher Aaron, on va te laisser la parole, mine de rien, parce que on arrive pas loin de la fin de ce podcast.
Il y a un gros morceau là. Ouais.
On a quand même un gros morceau à traiter. C'est donc la sortie de Red Dead Redemption, donc
le vendredi 21,
c'est quoi, c'est la plus grosse, on avait envie de dire déjà c'est la plus grosse sortie de l'année, alors qu'on est au mois de mai.
Ah oui,
franchement je pense, ouais,
c'est un GTA like, oui. Voilà, tu vois, on s'en débarrasse pas, c'est comme ça, un jeu à monde ouvert, donc tout simplement épatant, quoi, par la taille et
colossal,
et par toutes ces petites nouveautés que tu vas nous conter dès maintenant.
Oui, donc c'est encore une fois Rockstar San Diego cette fois-ci, qui reprend son moteur graphique amélioré, le Rage. Qui reprend sa structure narrative avec un ensemble de personnages qui vont te donner des missions à différents moments, et des lignes, en fait, des lignes de missions que tu vas pouvoir un peu traiter dans l'ordre que tu veux, le tout dans l'ambiance du western Far West de 1910, avec tout ce qu'il comporte de violent, de sauvage, ses factions, le Mexique, les Indiens, les cowboys, les saloons, les jeux de cartes, les prostituées,
tout. C'est plutôt le western à la Deadwood alors.
Un petit peu à la Deadwood, effectivement, version vraiment violente, un peu plus spaghetti que Deadwood quand même. Donc Deadwood, pour ceux qui ne savent pas, est une excellente série HBO.
Oui, voilà, oui, c'est possible. Ce sont un peu les premiers qui ont traité le western. Je pense qu'elle a dû être diffusée en France. Oui.
Elle a été diffusée sur Canal+.
C'est un peu les premiers qui ont fait transpirer du western quelque chose d'autre que.
L'analogie est excellente parce qu'effectivement, Red Dead Redemption est au jeu vidéo ce que cette série est aux séries télé.
C'est la période qui veut ça aussi, la période historique. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un endroit.
Oui, mais c'est le premier jeu en fait à traiter le western de cette manière-là.
C'est une période qui a été très fantasmée, très caricaturée. Enfin, tu regardes les vieux westerns de John Wayne, c'est quand même c'est très manichéen, c'est très beau, c'est très classe. Alors que bon, bah, le western c'était pas ça du tout, quoi. C'était crade, c'était un peu
c'était super violent, c'était crade.
Voilà.
Là dans Red Dead, typiquement, effectivement, tu vas avoir beaucoup de personnages qui sont propres sur eux. La plupart, ils ont des auréoles de ouf sous les bras, ils se changent jamais. Il y a des meufs qui sont égorgées dans les rues, tu peux te faire agresser à chaque détour de chemin et de sentier. Enfin, c'est
un pur
violent.
Jeu Rockstar, il n'y a qu'à voir le début, il a la patte Rockstar, hein,
dans la façon dont les dialogues sont ciselés, dont il y a des vannes qui renvoient à l'histoire contemporaine et qui critiquent la société.
Voilà, il y a de l'humour, c'est subversif, et puis en même temps c'est tout bien senti à chaque fois dans les dialogues.
Effectivement,
c'est les rappeurs de l'époque,
l'orientation de Red Dead est vachement plus sur de la reconstitution en tantinet historique que sur l'aspect subversif qu'on trouve dans un GTA 4 par exemple, qui est ouvertement une critique de la société moderne. Ouais. C'est pas forcément le cas,
c'est plus dans le clin d'œil.
C'est moins présent dans Red Dead. Red Dead raconte donc l'histoire d'un certain John Marston, qui était un hors-la-loi de la bande de Dutch, avec ses comparses Williamson et Juarez, je crois il s'appelle. Et qui en fait se retrouve obligé par le gouvernement de retrouver ses anciens compères Donc j'en dirai pas plus sur le synopsis, mais en gros c'est ça le début du jeu. Et donc il arrive à New Austin par le train en direction d'une ville qui s'appelle Armadillo pour retrouver ses anciens compagnons, donc enquêter sur où est-ce qu'ils en sont et essayer de les retrouver. Et là en fait ce qui est fantastique par rapport à ce qu'a fait Rockstar auparavant, c'est encore une fois jusqu'où ils ont poussé le game design systémique, qui est en fait donc cet ensemble de systèmes et de choses qui interagissent les uns avec les autres et qui créent de la vie, qui créent du gameplay émergent, qui créent plein de choses,
un monde
en
cohérent.
Plus de l'histoire, voilà. Donc grosso modo, effectivement, vu de l'extérieur, ça n'a l'air que d'un GTA-like finalement. Mais par-dessus ça, tu vas avoir tout un tas de défis à remplir qui vont te permettre de débloquer des choses. Toute une vie animale incroyable avec un nombre d'espèces, mais c'est juste colossal. Je pense même pas d'ailleurs les avoir toutes trouvées pour l'instant. J'ai joué plus de...
Parce que tu vas pouvoir chasser, etc. Plus d'une trentaine d'heures. Dans les activités annexes,
tu peux chasser, dépecer des animaux. Bon, ça n'a pas grand intérêt, si ce n'est pour certaines quêtes annexes ou pour l'aspect économique de la revente des peaux de bêtes. Sachant que, mine de rien, quand tu revends une peau de bête à un endroit où elle est plus rare, elle te rapportera plus d'argent qu'un endroit où elle est commune, etc. Donc il y a plein de petites choses comme ça, et c'est assez immense, évidemment.
Mais en quoi ça va plus loin que GTA finalement?
Ça va plus loin que GTA parce que
du plus c'est plus grand, il y a plus de quêtes, plus de choses à faire, etc. Reste quand même, c'est surprenant.
Ce qui est paradoxal en fait, c'est que ça se passe dans le désert en grande partie, hein, dans des grandes étendues très vierges du Far West. Donc à la différence d'une ville bourrée de vie en théorie, bah ça devrait être plus en milieu, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Et il y a beaucoup plus de vie dans un Red Dead Redemption finalement que dans un GTA 4, où à part un ensemble de piétons avec des événements rigolos où t'as des flics qui poursuivent des malfrats, il se passe 2-3 trucs à côté, t'as un taxi qui se plante dans un décor, des conneries comme ça, finalement il se passe pas tant de trucs très intéressants que ça sans l'intervention du joueur, alors que dans Red Dead il se passe plein de choses tout le temps. C'est même tellement, il y a tellement d'événements qui peuvent se passer. Moi j'ai joué à peu près plus d'une trentaine d'heures à l'heure où je vous parle là, et j'ai rencontré plus d'une trentaine d'événements différents, des événements aléatoires, de la nana qui te demande de la ramener en ville,
c'est-à-dire
parce que
t'es
sa carriole
est cassée. Entre le point A et le point B d'une mission, et puis d'un seul coup il y a un truc qui se passe.
Ça a été ultra difficile pour moi de suivre l'histoire parce que t'es sans arrêt attiré en dehors. C'est-à-dire que, à l'inverse des GTA d'avant qui font un peu tout pour plutôt te ramener vers l'histoire, là c'est l'inverse. Il y a plein de trucs qui sont faits pour t'en éloigner et pour que tu découvres des tas de choses à côté. Et tu te rends compte que ce qui t'apparaît comme un désert à la base, qui est évidemment splendide et que t'as envie d'explorer, et tous les ressorts habituels de la série fonctionnent cette fois encore, mais par-dessus ça, il y a une couche de vie qui va encore plus loin, qui est encore plus réussie avec des trucs où tu te fais des aventures, quoi, je veux dire. Par exemple, tu vois le train qui passe. Bon, t'es pas obligé de voir le train qui passe. Le train, évidemment, suit ses horaires, il suit un parcours. Bon, à un moment, je tombe sur le train. Je me mets à chevaucher à côté du train. Je m'aperçois qu'évidemment ils ont prévu le coup, je peux sauter sur le train, je saute sur le train, je commence à me balader dans les wagons, et en passant entre deux wagons je perds l'équilibre parce que je me suis mal démerdé, mon personnage se casse la gueule, Marston, tu joues John Marston, donc se tient la tête parce que t'as fait une chute qui fait mal, et pendant que je commence à me relever, il y a un cougar qui me fonce dessus, qui me saute et qui me griffe la gueule. Et tu fais merde, c'est quoi ce bordel, j'étais à terre, le cougar m'a attaqué. Plus loin, il y a d'autres cougars. Quand je suis à cheval et que j'ai dégainé, ils m'attaquent pas de la même façon. Ils me tournent autour, tu vois.
En fait, t'as l'impression qu'il y a plus d'interaction autour du joueur.
Et plus d'intelligence et plus de finesse dans la façon dont les systèmes sont conçus, avec vraiment des choses. Ça va être. On va chercher beaucoup plus loin encore dans le détail. Par exemple, si t'es en pleine ville à la sortie d'un saloon où il y a un mec qui est complètement bourré, en train d'essayer de tenir debout, tu le pousses, il se vautre, il se passe pas grand chose parce que le mec, il est tellement bourré que voilà. Si tu prends une nana juste à côté, tu la pousses. Là par contre, il y a de fortes chances pour que ça déclenche du grabuge et que d'autres mecs qui commencent à te taper dessus en disant « Mais attends, tu fais pas ça à une femme », alors que le livreur, tout le monde s'en branle, tu vois. Et c'est bourré de petits détails comme ça qui font que, mi bout à bout, tu t'en rends pas forcément compte au départ, mais le monde est vraiment d'une crédibilité qui va bien au-delà de celle de Grand Theft Auto.
Voilà, et alors tu parles de tous ces événements-là, mais il y a aussi quand même un aspect primordial, très important, c'est la réalisation. Et il faut dire qu'on a tous regardé par-dessus ton épaule pendant que tu jouais.
Mais moi, je suis complètement conquis. Donc,
Alors, c'est vrai que c'est un petit peu. C'est imparfait. C'est un peu dans le style de GTA, finalement. Tu vois des imperfections, c'est le même moteur.
Ils ont repris aussi leur fameux moteur d'animation procédurale qui n'est pas le leur, hein, pas celui de Rockstar, mais ça s'appelle. Je ne me souviens plus du nom de ce moteur, mais c'est un moteur d'animation spéciale qui est aussi utilisée dans
les animations sont incroyables
parce qu'elles sont liées à une intelligence, c'est-à-dire que quand un mec se casse la figure par exemple, il tente de se raccrocher pour sauver sa vie quoi. Voilà. Et c'est que des choses comme ça, donc ça joue énormément, ça n'a l'air que d'un détail, mais la qualité de l'animation est hyper importante dans la crédibilité de la façon dont le monde réagit à toi, y compris et surtout même les éléments vivants, que ce soit les animaux à quatre pattes ou les humains à deux. Et c'est vrai que c'est vachement propre.
Donc c'est vrai qu'il y a un peu de pop-up, il y a un peu de défauts techniques comme ça, mais
voilà,
c'est vrai que
des bugs d'animation.
Et puis c'est tellement varié, hein. Trace, tout à l'heure on se disait, Raon est en train de grimper avec son cheval dans les montagnes enneigées comme ça, et puis on voyait des décors à chaque fois se renouveler et tout. C'est juste magnifique en fait dans le design, dans tout ce que tu peux voir. Et d'ailleurs finalement ça n'a rien à voir avec GTA, parce que GTA finalement on voit que des immeubles, des maisons, etc. Là c'est des grandes étendues. Sans...
C'est peut-être ce qui renforce justement plus ce sentiment de pouvoir aller vraiment où tu veux et d'avoir un plus grande sensation de liberté.
T'as plus un sens du voyage en fait.
Oui,
que dans
t'as pas
GTA.
La frustration.
C'est beaucoup plus des paysans effectivement qu'un
GTA. T'as pas la frustration de ne pas pouvoir rentrer dans tous les bâtiments, qui est un truc que t'as dans GTA. Il y a des bâtiments dans GTA 4 où tu peux aller, mais très peu par rapport à l'ensemble de bâtiments qu'il y a finalement dans le jeu.
Tout à fait.
Et mine de rien, c'est
là,
une limite.
Il y en a pas beaucoup,
est...
mais dès qu'il y en a un, tu peux rentrer dedans.
Mais c'est une limite qui est immédiatement apparente aux joueurs.
Bien sûr.
Et cette limite n'existe pas dans Red Dead Redemption.
C'est comme les murs invisibles dont on parlait tout à l'heure, etc.
Exactement.
C'est un truc qui te fait sortir.
Quand tu n'y es pas confronté, tu ne l'imagines pas et tu n'y penses pas. Et c'est le cas aussi dans Red Dead. Il y a énormément de choses, énormément des écueils et des limites de la liberté que tu as dans un environnement urbain moderne que tu n'as plus dans Red Dead Redemption. Et du coup, tu as l'impression finalement d'être dans un monde plus crédible.
Et alors, moi ce qui m'importe beaucoup...
Je voulais juste rajouter un truc, c'est que c'est juste un univers qui, à mon avis, se prête plus à l'illusion dont on parlait tout à l'heure.
C'est ça,
la fameuse illusion. Voilà. Ouais.
Ça marche mieux parce qu'il y a effectivement beaucoup moins...
L'illusion.
Beaucoup moins de choses à rendre, beaucoup moins de choses à gérer, beaucoup moins de personnages à l'écran, il n'y a pas ces bâtiments, etc. Donc ouais, c'était peut-être le titre qu'il nous fallait pour justement...
pour renouveler un peu le genre, voilà. Quoi. Ouais, complètement. Alors, j'allais parler un peu du scénario parce que moi, j'ai pas encore commencé Red Dead Redemption et c'est quelque chose qui va compter dans mon sens, moi, de l'aventure, etc.
Dans ta vie vivante.
Voilà, j'ai besoin d'un personnage un peu charismatique, qui a un peu de profondeur, etc. Comment il se situe à ce niveau-là?
Je vais pas trop raconter non plus parce que.
Sans raconter.
Voilà.
Ouais.
Mais c'est un personnage qui est donc, comme le titre l'indique, sur la voie de la rédemption. C'est-à-dire que c'est donc un ancien hors-la-loi, je l'ai dit tout à l'heure, et il sera forcé par les événements à chercher à revenir sur sa vie ancienne qu'il veut enterrer pour devenir juste un fermier en fait et avoir une vie paisible parce que mine de rien, il vieillit. Je sais pas si on peut dire que c'est un personnage charismatique, mais en fait il est comme Niko Bellic. Niko Bellic, tu veux pas dire qu'il est charismatique, mais c'est un bon personnage quand même, tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu pareil, c'est un mec qui a vécu, qui est crédible, qui a une voix d'enfer, il est ultra bien doublé comme l'ensemble du jeu. Par contre, et ça d'ailleurs je l'ai pas précisé dans le test à l'écrit, il y a que des sous-titres, hein. Toutes les voix sont en anglais,
tout en anglais, ouais.
Avec des accents
comme
géniaux, etc.
Hein,
quand on apprécie l'anglais, c'est que des accents de cutéreux de l'époque, etc. C'est super bien joué. Mais pour les anglophobes, ça reste éventuellement de poser un problème parce qu'il va falloir vraiment lire les sous-titres. Il y a beaucoup de parlotte. Donc bref, ça mise à part, le personnage est intéressant quand même parce qu'il a effectivement ce passé dont tu connais pas tous les détails, mais tu peux apprendre pas mal de choses au fur et à mesure en farfouillant un peu, etc. Et ce que tu vas faire ensuite dans le jeu, donc en suivant l'histoire, va t'amener à certaines actions qui sont liées à l'histoire elle-même, mais par contre tout ce que tu vas faire à côté est vraiment déterminant pour toi puisqu'il y a un système de réputation et que tu peux faire le bandit si tu veux, tu peux faire l'enfoiré, tu peux faire des hold-up, tu peux faire plein de choses.
Est-ce que
tu
as eu l'impression d'avoir eu à faire des choix moraux à un moment ou à un autre, des choses qui ont impacté l'histoire, ouais, qui t'ont fait aller à droite ou à gauche et qui ont transformé un peu toute ta réputation, ton personnage?
Alors pas dans le sens où parce qu'il n'y a qu'une seule histoire, hein, pas dans le sens où tu vois vraiment, tu sais, les deux grands panneaux avec ça c'est la voie du bien, ça c'est la voie du pas bien. Parce qu'effectivement, et comme souvent chez Rockstar, c'est très brouillé, ils évitent le plus possible d'être trop manichéens aussi, même si bon, ça le reste un petit peu. Par contre, dans la façon dont tu vas traiter certaines quêtes pour obtenir un objectif, il y a vraiment une expression morale, oui. Parce que par exemple, hors la loi que tu dois éliminer de ton chemin ou machin, t'es pas obligé de le tuer. Tu peux juste le capturer au lasso et le remettre aux autorités.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, les choix moraux, ils sont en permanence là, quoi.
Ils sont en permanence.
Tu peux faire
là.
Tout ce que tu veux à n'importe quel moment. Donc,
et si
la
tu
liberté
commences...
te laisse, voilà. Te laisser de d'aller où tu veux, quoi.
C'est ça. Et t'as une composante d'honneur, donc qui évolue en parallèle de ta réputation. Et cet honneur est lui une échelle à deux directions. Donc, soit tu vas dans le négatif si tu fais des choses moralement répréhensibles, des crimes, etc. Soit tu vas dans le positif si tu aides les gens, etc. Et donc, c'est vraiment la manière dont tu vas jouer qui va déterminer ces choix moraux. Et qui va faire évoluer le personnage, en tous les cas sa réputation, par rapport à ça.
Bon, alors avant de recommencer toute l'aventure pour voir si tu peux faire un autre personnage, tu pourras un petit peu t'amuser avec les modes multi, parce que c'est aussi l'un des attraits de ce jeu. Ils ont pas mal bossé les modes multi.
Là encore, ils ont été vachement plus loin que ce qu'ils proposaient dans GTA 4, tout en partant sur les mêmes bases en fait. de monde ouvert.
C'est-à-dire, on se retrouve dans le bac à sable tous ensemble.
Voilà, c'est ça. Et après, on peut déconner. Donc, il y a quand même vachement de. En fait, quand tu actives le multijoueur, soit depuis le menu titre, soit à n'importe quel moment, quand tu es en solo, si tu as envie de passer en multi, tu appuies sur multi et tu passes en multi. Donc, tu as un petit chargement. Tu crées une partie où tu rejoins la partie d'autrui. Tu es en mode exploration. Et le mode exploration, c'est donc le mode ouvert dans lequel peuvent se réunir plusieurs joueurs, soit pour se balader donc avec tes potes ou si tu es en mode privé ou n'importe qui si tu es en mode public. Et tu peux, par exemple, nettoyer des camps de bandits, relever des défis particuliers avec tes potes, comme par exemple... ramasser des peaux de tel ou tel animal en quantité, parce que t'as aussi par-dessus des défis qui sont liés au Rockstar Social Club, qui est le site qui réunit toutes les statistiques des joueurs des jeux de Rockstar, et qui lui-même offre des défis supplémentaires par-dessus tout ça, qui sont à compléter par l'ensemble de la communauté des joueurs. Donc il y a tout ça, et puis tu peux aussi, à partir de ce mode exploration, lancer des parties plus traditionnelles jusqu'à 16 joueurs avec de la fusillade, soit en équipe, soit en free-for-all, donc du deathmatch typique, soit des trucs genre capture de drapeau, sauf que tu te balades avec des sacs d'or, etc. Et par-dessus ça, ils ont rajouté le fameux truc à apporter Call of Duty, c'est-à-dire des XP et des Experience. Niveaux qui débloquent du contenu. Donc au fur et à mesure que tu remplis des défis, soit en solo dans le mode multi, c'est-à-dire que tu peux jouer tout seul dans ton mode exploration en attendant que les joueurs te rejoignent, et compléter des défis tout seul si tu veux. Donc tu fais ça, tu gagnes des XP, tu montes de niveau, ça débloque des avatars différents, des montures plus performantes, des armes, etc. Donc il y a une vraie courbe de progression par rapport à ça, et c'est beaucoup plus intéressant à jouer finalement que pouvait l'être GTA 4 en multi, même s'il était déjà, enfin moi je me suis beaucoup amusé avec GTA 4 en multi parce que c'était le bordel, et c'est toujours le bordel au niveau des fusillades, quoi, tu vois, c'est le même système, donc c'est assez jouissif, ouais. Et puis il y a quand même le trip de chevaucher avec tes potes dans la pampa, quoi.
Ce jeu est tout simplement énorme.
tu m'as jamais dit ça. Tu voulais qu'on aille chevaucher dans la pampa.
Non, mais ce qui est bien, c'est qu'effectivement en multi, ce que nous disaient les gars de Rockstar d'ailleurs, c'est que quand tu joues à 8 contre 8 par exemple, parce qu'on peut jouer à 16 maximum, tu peux pas faire n'importe quoi. Il faut absolument qu'il y ait un mec qui soit à tel endroit.
Ah, il y a des chefs.
Ouais, exactement. Il y a un chef de groupe effectivement. Il faut absolument qu'il y ait un mec qui soit à tel endroit. Ouais. Deux autres ici, deux autres machins. Sinon, ça fonctionne pas. Tu peux pas aller voler leur or pour le ramener, etc. Enfin.
Ouais, il y a des stratégies.
Il y a vraiment des stratégies à faire.
Et le chef de groupe peut indiquer des stratégies. Bon, évidemment au micro, hein, mais aussi en utilisant des outils dans le jeu. Donc oui, c'est beaucoup plus complet en multi que GTA 4. Et surtout, il va y avoir un suivi énorme. C'est sûr et certain, tu le vois déjà de la façon dont Rockstar a prévu plein de défis différents à rajouter et des contenus qui seront pour la plupart gratuits a priori, en tous les cas dans un premier temps. Ils vont sortir un premier DLC en juin qui proposera des missions en coopératif. Donc je ne sais pas exactement quelle forme ça aura, mais ce seront des petites missions à jouer en coopératif qui ne sont pas pour l'instant là et qui sortiront en juin sous forme de DLC gratuit. Ils vont rajouter des choses après, etc. Enfin, Rockstar, d'une manière générale, est un développeur généreux avec ses communautés, avec ses joueurs.
Ah, Ibishon, c'est sorti. Hein.
Voilà, et quand ils font un DLC payant, c'est pas pour se foutre de la gueule des gens. Voilà,
donc, en général, oui, il y a de la matière.
Je pense qu'on peut leur faire confiance aussi là-dessus. Et vraiment, voilà. Enfin, moi, j'ai été assez époustouflé par la quantité et la qualité du travail qu'ils ont fait dessus. C'est sûr qu'il n'est pas parfait non plus.
Ça révolutionne pas forcément
le genre, mais ça le pousse nettement plus loin.
Ça le pousse très, très, très loin. Ouais, ouais. C'est un peu ça en conclusion. Oui, un peu. Ouais. C'est le blockbuster qu'on attendait.
C'est incontournable. Et puis, alors, qu'on aime ou pas les westerns, par exemple, moi je suis pas un grand taré de western à la base, mais alors là je suis rentré dedans. Pour moi, c'était
tellement dedans que
c'était vraiment une expérience vraiment, vraiment incroyable, quoi. Et non, mais surtout, ce genre de jeu à côté,
on a l'impression d'en avoir pour son argent, quoi. T'achètes le jeu 70€, mais
S'il passe au contrôle technique, il a tout gagné, lui. Hein. C'est énorme en termes de contenu.
Bon, après, tu peux prendre des raccourcis, tu vois, t'es pas obligé d'aller dans une autre mission. Moi, j'en ai très peu pris, malheureusement, parce que je suis un peu con, mais que je voulais pas, même en étant en situation d'en faire une critique, aller trop vite. Mais tu peux passer de mission en mission sans forcément chevaucher d'un point à un autre. Mais si tu fais tout ça bien et que tu te plonges vraiment dans le truc, mais avant de finir le jeu, il faut que tu comptes plus d'une journée de. Plus de 24 heures en tout cas, largement.
Bon, en tout cas, pour avoir tous les détails, on recommande évidemment à tout le monde d'aller lire ou relire ton test et éventuellement d'aller se jeter sur le jeu dans la première boutique.
Si c'est déjà fait.
Voilà, si c'est pas déjà fait.
Si vous avez déjà pas essayé de vous le procurer d'ici la sortie vendredi.
En attendant, on va donc conclure ce podcast et j'ai envie de faire un traditionnel tour de table en fait. Et j'ai envie de vous poser deux questions à chacun.
Là, j'ai peur.
C'est quel a été votre premier choc en termes de monde ouvert et de liberté dans un jeu, et qu'est-ce que vous attendez du suivant? Voilà. Est-ce que quelqu'un veut démarrer là-dessus?
Bah allons-y.
Comme tu veux. Bah moi je veux bien. Hein.
Vas-y.
Moi, mon premier vrai choc, je vais pas remonter à des années 80, mais pour moi c'était Zelda 3 donc sur Super Nintendo.
Super Nintendo, ouais.
Comme j'ai expliqué tout à l'heure, parce que j'ai été dedans, mais tout de suite quoi.
Premier sentiment d'être lâché dans un monde ouvert.
Exactement. Tu pouvais faire un peu tout ce que tu voulais tout de suite, et puis surtout bah, les conditions météo, tout ça faisait que t'étais immergé. D'entrée de jeu, t'étais déjà dans le truc et t'avais l'impression, enfin t'avais la sensation que t'allais vivre une super aventure et que tu voulais que ça s'arrête jamais. Donc voilà, pour moi c'était le premier gros choc que j'ai eu graphiquement et aussi donc pour tout le monde du jeu en fait.
Et alors qu'est-ce que t'attends du suivant pour toi? C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer après?
Le vrai suivant ou
de quoi t'as envie en tout cas?
Après Red Dead Redemption ou
ouais.
Parce que moi déjà Red Dead Redemption ça a été un putain de choc
déjà.
Aussi. Hein.
Ouais.
Tu vois, ça fait un grand écart dans le temps entre Zelda 3 et celui-ci, mais il s'est passé beaucoup de choses entre temps, mais c'est vrai que celui-là, il m'a, Red Dead, il m'a vraiment, vraiment bluffé et il faut absolument que je le fasse, quoi. même si ça va me prendre des siècles avant d'en voir le bout. Mais
c'est bien, t'as raison. Il faut cueillir les roses du présent. Donc,
exactement.
Voilà, tu vas jouer à Red Dead Redemption.
Pas
trop
le faire à cheval pendant qu'il est chaud.
Voilà, voilà, tout à fait. Et tu penseras à la suite après. Facile.
Bah, je vais pas être très original, hein. Je pense que c'est peut-être pas la première fois où je me suis senti immergé dans un monde vivant, mais en tout cas c'est la fois où ça a le mieux pris sur moi, c'est GTA 3. Enfin, un joueur PC, forcément ça a été le premier. Je mettrais même ça avant tous les RPG, les Elder Scrolls et compagnie. Je crois que c'est vraiment la fois où je me suis senti impliqué dans le monde, dans ce qui se passait, où j'étais comme un gosse à jouer pendant 3 heures avant de faire la première mission, juste pour voir ce qui se passait, si j'appuyais là ou si je poussais tel monsieur. Et ça, voilà, pour moi c'était génial, c'était un grand souvenir.
Ouais. Et pour la suite, mon cher Fasquille, bah, est-ce que tu as des envies particulières?
T'es
comme Traz et tu te
souviens
de ce que tu as dit présent
là. Je pense que je vais essayer de gauler un exemplaire pour ma PS3 et puis on va s'y mettre. Sinon, je pense qu'il faudrait qu'on garde un œil aussi sur. Je reviens toujours à mes marottes, mais la communauté indé est en train aussi de faire des expériences qui sont un peu obscures pour le moment sur tout ce qui est gameplay émergent, les jeux qui se jouent tout seuls avec des règles qui s'inventent toutes seules, etc.
C'est ça qui semble encore comme le Eldorado,
c'est
quoi.
C'est de la science-fiction,
ce
voilà. Mais eux sont déjà à fond dedans. Par contre, c'est des concepts.
C'est de
très
l'expérimental.
Abstraits, c'est de l'expérimental. C'est pas des jeux qu'on peut encore présenter aux gens aujourd'hui. Mais il y a quelques idées là-dedans qui voudraient peut-être, à mon avis, il faudra un deuxième podcast complet pour en parler. Mais il y a des choses intéressantes à aller voir de ce côté-là aussi.
Du moment que c'est pas du Second World.
Non.
On n'a pas parlé, mais
on n'a pas parlé de Second World. Ouais.
On aurait pu parler longuement aussi des MMO.
Alors les MMO, ils doivent avoir la place qu'ils méritent entièrement. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est des mondes ouverts, mais c'est vraiment un genre à part auquel on a déjà accordé un podcast.
Oui.
Mais je pense qu'on va revenir sur cette thématique.
On aurait pu parler de sport aussi, qui n'a pas eu le succès, qui n'a pas été le jeu que tout le monde attendait, qui a été un peu décevant, pour parler gentiment, mais qui sur le papier s'annonçait vraiment et comme le bac à sable ultime dans lequel on allait pouvoir faire tout ce qu'on voulait.
C'est intéressant. On parle de sport là vite fait pour faire une importée là-dessus, c'est que ce qui a pas fonctionné dans le sport à mon sens, c'est les mécaniques de jeu, parce qu'en fait c'était pas marrant à jouer.
Non, voilà, il y avait pas de fun en fait.
Et Red Dead Redemption c'est exactement l'inverse, c'est que tout ce que t'as à faire dans le jeu c'est super fun.
Voilà.
C'est vachement intéressant. Donc il y a plein de trucs à y faire. Hein,
on est en train de se chercher quand même quelque chose, peut-être pas une formule, peut-être des formules.
Mais un jeu doit
être
amusant avant tout. Il est aussi fait pour ça, c'est un divertissement. Donc.
Et ça, Rockstar l'a super bien compris avec Red Dead, parce
bien sûr.
Tout ce que tu fais.
Parce qu'en même temps, ils font avancer vachement le schmilblick à chaque fois qu'ils sortent un jeu, mais ils restent assez traditionnalistes sur leur formule, qui font évoluer, etc. Petit à petit.
Elle est pas parfaite, mais c'est une formule qui fonctionne. Donc voilà.
Bon alors toi Raon, vas-y, dis-nous tout.
Sortie de Red Dead Redemption qui est pour moi le meilleur. Je pense que c'est la meilleure production Rockstar à ce jour d'ailleurs.
Ton premier souvenir d'abord.
Mon premier souvenir, bah alors j'aurais pu dire GTA 3 évidemment. J'aurais pu dire GTA 3 évidemment, exactement pour les raisons qui ont été citées. Mais je garde aussi un point faible pour Daggerfall. Et là pour le coup c'est vraiment à cause de son immensité.
Ça c'est le deuxième Elder Scrolls. Hein,
voilà, c'est-à-dire vraiment la voilà Elder Scrolls 2 Daggerfall, la sensation que il y avait pas de limite quoi. Voilà, c'est que là vraiment, c'est-à-dire que partout après tu les sens, mais dans Daggerfall il y en a vraiment pas. Et c'est d'ailleurs je pense la plus grande surface ouverte encore aujourd'hui quoi.
Traz.
Oui, donc tu parlais un petit peu pour le futur. C'est vrai que je préfère rester dans le présent parce qu'il y a Red Dead qui sort vendredi.
Ouais. Il y a quelque
mais
chose.
C'est vrai que je me suis dit si on pouvait avoir un Monkey Island dans ce même registre-là, ça serait juste fantastique.
Mais c'est peut-être
genre autant des pirates et des machins.
Rockstar,
mais
pourquoi pas.
Alors là, franchement, ça me paraît complètement abstrait comme
idée. Moi aussi, exactement.
Mais du coup, ça m'intéresse.
Tu rigoles ? Rockstar pourrait parfaitement faire.
Ah oui, Rockstar, oui, clairement.
Un jeu d'aventure,
un
comme
open
ça,
world
pareil,
Red Dead, mais dans le monde des pirates.
Ça serait extraordinaire avec l'humour à la con.
Ah, tu veux dire, d'accord, en utilisant l'univers de Monkey Island, pas le genre aventure, machin, etc.
Ah, pourquoi pas, si, pourquoi pas.
Pourquoi pas, non, mais il y a peut-être quelque chose à faire, je sais pas, mais, c'est, non, mais j'avais
si,
compris
si,
ça.
Si,
mais...
si y a le même humour que ce qu'il y a dans, ouais, voilà, dans Monkey Island, ça serait génial.
Mais l'humour, j'imagine déjà incarner un flibustier dans un peu
oui,
noir,
mais ça, ça serait
pas,
c'est
clair, où tu vas passer de bateau en bateau, te balader sur des îles.
Ah, il y a encore plein de choses à faire.
Bien sûr.
Moi, et ton futur Daggerfall, alors, c'est quoi?
Bah, ce serait en fait peut-être ce concept de là me plaît bien, mais en fait cet équilibre entre la narration que tu déclenches quand tu veux et tout cet aspect systémique. Le seul truc, c'est qu'effectivement il faut complexifier les systèmes, rendre les IA de plus en plus complexes et crédibles et améliorer et pousser là-dessus, quoi. Mais
oh, ça paraît simple comme ça.
Ouais. Bah, vas-y, moi,
allez-y,
on
les
va
mecs
faire un petit studio là et puis on va bosser ensemble, les gars.
Mais
je pense qu'on a des bonnes idées.
J'ai du mal à... Oui, si, enfin, il y a un truc. Par exemple, moi, il y a une de mes plus grandes déceptions de toute l'histoire des jeux vidéo, dans les promesses qui ont été faites et qui m'ont fait rêver, mais qui ont échoué à se concrétiser. Il y avait un jeu qui s'appelait Mankind.
Duke Nukem Forever.
Qui était un MMO. J'ai jamais vraiment cru. Mais Mankind était un jeu donc, développé par des Français,
oui,
d'ailleurs,
oui.
Édité par Cryo.
Exact.
Un MMO dans l'espace où il y avait une galaxie entière à explorer, où tu pouvais atterrir sur les planètes.
C'était Star Trek,
etc. Ça, c'est une promesse en fait qui me charme vachement. Et j'ai pas osé me mettre vraiment à Eve parce que y avait pas vraiment, en tous les cas au début, d'exploration des planètes. Mais le rêve, c'est ça, quoi. C'est aussi Star Wars, c'est-à-dire d'aller encore plus loin et de te dire t'as des planètes entières à explorer et en plus tu peux passer d'une planète à une autre et aller dans l'espace et construire des stations et faire plein de choses différentes. Et donc d'avoir cette sensation où, quoi qu'il arrive, t'as un monde incroyablement riche à explorer, quoi. Mais moi, vraiment, l'aspect exploration marche très,
toi,
très fort.
Ça, c'est l'exploration.
Pour moi. Ouais. Ça marche très fort.
Bon, pour ma part, parce que alors Emmerich nous a coûté
prématurément.
Je pense que c'est Spider-Man 2 qui l'a marqué plus.
Lui, il attend Spider-Man 3 en fait. Voilà. Non, alors, je vais pas être très original pour ma part, parce que moi perso, ma vision elle a changé avec GTA 3 et pour les mêmes raisons
t'as
évoqué, Fasquille.
T'as pas dit Shenmue.
Mais non, mais Shenmue c'est un autre délire. Moi, Shenmue c'est pas le. Et d'ailleurs, ça fera la transition, c'est parfait. Parce que Shenmue, c'est pas l'aspect ouvert. C'est génial, j'ai trouvé ça. Ça m'a épaté, ça m'a fait participer vraiment au truc. Mais moi, c'est l'histoire, c'est le fil rouge,
ouais,
c'est l'aventure, le voyage. Et donc, j'en viens à ce que j'attends de l'avenir, en tout cas de ces jeux comme ça, à monde ouvert, c'est qu'on arrive à mettre de l'histoire dedans. Mm. Et là, j'ai envie de sortir une citation que je tiens grâce à toi, Raon, qui est de David Braben,
le créateur d'Elite.
Le créateur d'Elite, voilà. Qui disait: le saint graal du game design de cinquième génération que nous recherchons, c'est la possibilité de mêler liberté et histoire véritablement ouverte.
Oui, c'est-à-dire une histoire qui n'est pas forcément préécrite.
Mais une histoire quand même. Et parce que j'ai quand même l'impression, ce qui est le plus dur, on a tous la même impression, parce que c'est la réalité, c'est d'inclure quand même une histoire sur laquelle tu vas vraiment interagir.
Avec un début, un milieu et une fin, mais sauf qu'il est possible.
Voilà, sauf que tu vas la vivre, et peut-être même en multijoueur, voilà. Mmh. Parce que ça aussi, c'est quelque chose, c'est un terrain qui reste à défricher, mais totalement.
Du point de vue narratif, oui.
Tout le monde tourne en rond à cause de World of Warcraft, mais il y a vraiment des trucs à faire, quoi. Et je dirais, mon avenir, c'est rêver, c'est un peu ça.
Mais c'est vrai que j'en ai pas parlé. Mais
un mélange de multi et de monde ouvert comme ça, avec du scénario, quoi. Un truc qui se passe, qui t'épate, qui peut-être être différent pour tout le monde, etc. Ça me botte, mais d'une force.
Mais c'est exactement ça. Et c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais la seule chose qui manque à la formule Rockstar, c'est le système qui va te créer des histoires qui sont pas forcément préécrites. Ouais. Alors ils veulent pas le faire, hein. Eux, leur truc, c'est quand même d'écrire des histoires de début jusqu'à la fin, et pour les densifier, justement, parce qu'ils, voilà. Mais la personne qui arrivera à créer un espèce d'algorithme générateur d'histoire géniale.
Et là, on est dans la science-fiction totale.
Non,
c'est
pas la science-fiction.
Mais
si, c'est possible, parce que tu utilises des briques fondamentales. Il faut juste comprendre comment une histoire fonctionne.
On va connaître bientôt les gameplays émergents. Il faudra des histoires émergentes.
Non, mais quand tu sais, par exemple, que
de
la musique peut être générée par des mathématiques et être assez bluffante en l'étant de cette manière-là.
Oui,
on aurait l'impression que c'est écrit par des gens. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas créer, en tous les cas, des moteurs d'histoire vraiment très très puissants. Et c'est un terrain qui me reste à défricher vraiment. Parce que pour le moment, en fait, il y a des générateurs d'events et c'est des bulles d'histoire comme ça. C'est pas des histoires qui sont formées avec plein de petites briques différentes où tu peux avoir des personnages inventés par le jeu. qui interagissent de manière inventée et par
de manière
jeu,
différente
etc.
à chaque fois voilà. Pour, parce que t'as toi-même fait quelque chose de différent à chaque
est-ce
fois.
Que c'est vraiment quelque chose que tu penses qu'un développeur a envie de
je pense pas non
je pense pas que c'est un outil dont il a envie non plus en fait
peut-être
je pense
pas.
Que c'est un fantasme
il pourrait pas vendre,
joueur, mais
il pourrait pas vendre cette DLC sinon
à ce jour,
son intérêt pour lui c'est de raconter une histoire aussi et si quelque part on lui dit en fait tu dois plus rien raconter tu fais juste t'appuies sur un bouton et ça va générer les histoires pour toi dans un cadre que t'auras défini
c'est la fin de l'homme
et peut-être qu'en définissant le cadre si on a les bons outils pour définir le cadre tu peux imprimer aussi ton style, enfin je veux dire ton, tu peux imprimer ta façon de voir les choses, etc.
Ouais,
Mais ce que j'en dis, c'est que c'est pas un absolu, c'est un système qui peut aussi peupler d'histoires entre des nœuds qui auront été écrits auparavant pour avoir le début, le milieu et la fin. Mais peut-être que entre ce qui se passe, c'est comme une espèce de mélange des Viren et de Red Dead Redemption, c'est-à-dire des nœuds narratifs qui sont indispensables, mais entre lesquels on n'a pas forcément besoin de tout écrire comme dans les Viren, mais qu'on peut le générer. Et donc de mélanger les deux pour parvenir à un résultat qui réunisse le meilleur des deux mondes, en fait.
Eh bien, je vous propose de méditer là-dessus.
Ouais. Le meilleur des deux mondes.
On va se quitter parce qu'on est déjà à 1h32, presque 33 de podcast.
Ouais, et qu'on est fatigué, on a faim.
Non, cela dit, c'était passionnant. Et en tout cas, voilà, sur cette note de science-fiction, on vous souhaite une bonne semaine.
Voilà.
Et puis, rendez-vous
la semaine prochaine pour un nouveau podcast.
Voilà, exactement. Et puis peut-être avec vos commentaires sur Red Dead Redemption, puisque vous aurez certainement, vous serez très nombreux à avoir pu y jouer. Donc voilà, qu'est-ce qu'on leur souhaite à tous nos internautes ?
Bon jeu, rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager dans les forums vos souvenirs aussi et votre perception de ce qu'est un jeu open world et de
est-ce
pourquoi
que ça peut
bien,
devenir.
Quelles en sont les limites ? Mm-hmm. Est-ce que ça vous plaît ou pas ? Est-ce que vous recherchez finalement la liberté dans les jeux ou est-ce que finalement vous préférez qu'on vous raconte des histoires peu importe dans quel cadre ?
D'ailleurs, Ypsilo a fait un bel article sur Gameblog.
Tiens, oui,
sur
recommandons.
Les
on va le passer dans le fil d'actu d'ici peu parce que c'est parfaitement
très complet. Et vraiment bien foutu.
Un article d'Upsello, ouais, tout à fait. Tiens, on va le mettre mercredi, pourquoi pas, avec le podcast.
On
va
avoir
un total monde bac à sable, monde ouvert, etc. Voilà. Bon, allez, on vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour le prochain podcast de la rédac. En attendant, bah, surfez bien et puis
jouez
bien.
Bien
portez-vous
sûr.
Bien.
Salut, à bientôt. Bien.
Ciao, ciao. Ciao.
Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr avec aujourd'hui des podcasts de la rédaction. Aujourd'hui, mercredi, je sais pas quel jour on est, merde! Au jeu d'aventure. Putain! Mais pourquoi je dis.